7h. Nous sommes le vendredi 30 septembre, soyez les bienvenus.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et à la une de l'actualité, je vous le disais, êtes-vous woke, éveillé en français dans le texte? C'est notre dossier du vendredi thématique sur Europe 1, votre rendez-vous hebdo pour comprendre le monde qui nous entoure. On va s'intéresser à cette idéologie qui nous vient tout droit des États-Unis. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme woke? Explication de Céline Géraud, de la chef du service Société d'Europe 1. Dans un instant, nous nous interrogerons également sur ces jeunes Français en quête d'identité, de leur identité sexuelle. Le Conseil d'État vient d'autoriser les adolescents transgenres à changer de prénom, masculin pour féminin et inversement, et sans le consentement de leurs parents. Vladimir Poutine, lui, s'apprête à rattacher une partie de l'Ukraine à la Russie. Pendant ce temps, en mer Baltique, l'enquête sur le sabotage des gazoducs ne fait que commencer. Pas sûr que la vérité surgisse un jour du fond des mers, nous dira Nicolas Toneff. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, cela ne saurait tarder. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'ouvrir le dossier ce matin. Les vendredis thématiques d'Europe 1 plongent dans l'univers du wokisme, concept venu tout droit des États-Unis. Son principe, Céline Géraud, c'est la défense des minorités contre toute forme de discrimination.
Eh bien, selon le dictionnaire où il a fait son entrée cette année, le wokisme désigne l'idéologie d'inspiration woke centrée sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités, parfois perçue comme attentatoire à l'universalisme républicain. Mais pour Anne Toulouse, auteure de « Wokisme, la France sera-t-elle contaminée ?», cette définition mérite un ajustement.
C'était au départ une idée extrêmement généreuse et qui aujourd'hui a dérivé entre une espèce de poursuite inlassable des injustices, y compris par celles qui ont été commises par quelqu'un d'autre et contre lesquelles on ne peut rien.
En France, le wokisme agrège aussi des sujets comme les études de genre, la remise en cause de certaines figures historiques, la cancel culture ou l'écriture inclusive.
J'ai l'impression que, comme aux États-Unis, nous sommes en train de négliger l'essentiel au profit de l'accessoire. Si on apprend aux gens, dès leur plus jeune âge, qu'ils sont des victimes ou des oppresseurs potentiels, je pense que ça va diviser la société. Et une fois qu'on a divisé, c'est très difficile de réunir.
En attendant, en France, le wokisme reste méconnu. Selon un sondage IFOP, 14% seulement des personnes interrogées avaient déjà entendu ce mot et seulement 6% d'entre elles en connaissaient le sens.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1.
Alors, cette pensée woke, on la sent se diffuser dans la société, les politiques s'en emparent, les jeunes également. Exemple avec ces adolescents qui se questionnent sur leur identité sexuelle, qui se revendiquent transgenres. Ils sont nés hommes ou femmes, mais refusent d'être assignés à leur sexe de naissance.
Et ils demandent donc à pouvoir changer de prénom du masculin au féminin. Et inversement, le Conseil d'État vient de leur donner raison. Désormais, les élèves de collège ou de lycée pourront se faire appeler par un autre prénom que celui choisi par leurs parents, avec quelques nuances, David Montagnier.
Oui, les enfants transgenres pourront se faire appeler par un prénom qui n'est pas le leur, en tout cas pas celui de leur état civil. Cela se fera avec l'autorisation des parents si l'enfant est mineur. C'est ce que confirme le Conseil d'État qui valide ainsi les instructions de la circulaire Blanquer de septembre 2021, un texte qui ne fait pas l'unanimité. L'objectif affiché en tout cas est de protéger les élèves transgenres, de faciliter leur accompagnement au nom de la scolarisation inclusive de tous les enfants. Une décision saluée par Éric Labastie, secrétaire général de la FCPE.
Réellement une avancée très importante qui permet de créer un environnement scolaire qui garantit aux enfants et aux adolescents et aux adultes aussi qui se questionnent sur leur identité de genre, le droit à l'intégrité, au bien-être, à la santé et à la sécurité.
Une limite cependant à cette liberté, le véritable prénom doit être conservé pour la notation des élèves. Mais pour beaucoup, il s'agit d'une offensive de l'idéologie transgenre sur l'école française. L'association SOS Éducation a lancé dès l'an dernier une pétition contre cette circulaire.
David Montagnier.
Les vendredis thématiques d'Europe 1, donc on va en parler de cette pensée woke avec notre invité juste après le journal, Jean-François Brandstein, professeur de philosophie contemporaine, auteur d'un ouvrage remarqué en cette rentrée, La religion woke. 7h05, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Gabriel Attal sont en Guyane ce matin, trois ministres, pour un même constat, la lutte contre le trafic de cocaïne et la délinquance dans le territoire sont un échec.
Le plus grand département français est aussi le plus criminogène, plus de 11 morts pour 100 000 habitants, trafic d'armes, de stupéfiants ajouté à une grande pauvreté plonge la Guyane dans une violence désormais endémique. Europe 1 a précédé l'arrivée des trois ministres pour dresser le tableau de la situation. Notre envoyé spécial William Molinier a embarqué dans une voiture de la BAC lors d'une patrouille de nuit. Reportage.
Ils viennent tout juste d'enfiler leur gilet pare-balles. Les deux équipages de la BAC sont déjà appelés en renfort, direction les faubourgs de la ville pour une rixe à l'arme de poing. Sur place, un homme alcoolisé tient des propos décousus. Il est appréhendé par Dom, le chef de la BAC nuit de Cayenne.
L'arme, on ne l'a pas retrouvé parce que avant notre arrivée, il a certainement dû la donner à un autre jeune du quartier. Acquérir une arme à Cayenne, ce n'est pas chose difficile. C'est quelque chose de coutumier, que ce soit des armes à feu ou des armes blanches.
Il y a quelques jours, les policiers de Cayenne ont pour la première fois eu affaire à du 7,62 mm, un calibre de guerre chargé d'ordinaire dans des kalachnikovs.
Ça vous traverse de part en part si vous n'avez pas une protection, et même avec une protection, ça peut engager des dommages irréversibles.
Dom tient à nous montrer le quartier chinois que les habitants surnomment d'eux-mêmes Chicago en raison de la forte criminalité. Ici, Brésiliens, Surinamais, Haïtiens et Caribéens se côtoient. Le trafic de cocaïne fait partie du paysage.
Le village chinois, il y a une grande concentration aussi de craqués. Les cambriolages, les vols à la roulotte, les agressions.
Outre les armes et la drogue, la Guyane fait face à des problèmes massifs d'immigration. Impossible de contrôler les 1240 km de frontières sur les hauteurs de Cayenne. Les clandestins s'amassent dans des bidonvilles, venant paupériser une population déjà très fragile. 41% des foyers allocataires guyanais perçoivent le RSA, contre 8 au niveau national. Cayenne, William Molinier, Europe 1.
Il est 7h07, le retour en France avec... Attendez, je ne suis plus du tout, je vous laisse reprendre mon cher
Mais on était sur l'enquête sur le sabotage de Nord Stream en mer Baltique, il faut suivre Dimitri, ne fait que commencer, elle s'annonce très difficile. Le Conseil de sécurité des Nations Unies abordera la question aujourd'hui à New York. Il s'agira d'apporter des éléments pour éclaircir la situation. De leur côté, le Danemark et la Suède débutent les investigations. On va donc sonder le fond de la mer Baltique pour trouver des indices, des recherches suivies de près par Paris, où on ne se fait pas trop d'illusions, hein, Nicolas Taneff.
Oui, plusieurs raisons à cela. D'abord, les fonds à l'endroit des explosions, seulement 70 mètres. Hein, 5 à 6 pays dans le monde savent opérer à cette profondeur. Conséquence, même si elle est la plus étudiée, la piste russe n'est pas la seule. Autre obstacle potentiel à l'enquête, le mode opératoire. Le plus probable serait l'usage de mines. Des engins d'une puissance totale d'environ 6 tonnes de TNT pour les 4 explosions peuvent avoir été installés il y a plusieurs semaines et déclenchés à distance. Le moment voulu, il faudrait donc retracer le passage de centaines de bateaux pour identifier celui qui s'est arrêté à la verticale des gazoducs. Enfin, il va falloir une à deux semaines aux spécialistes pour se rendre sur place. Des délais qui laissent le temps au courant de faire le ménage. Hein, les éventuels débris trouvés sur place peuvent aussi être trompeurs. Les services secrets utilisent souvent des armes originaires d'autres pays que le leur pour cacher leurs méfaits. Et puis, quant à l'analyse des faits au sein du gouvernement français, d'après les sources d'Europe 1, il s'agit d'un avertissement envoyé à l'Occident sur sa fragilité dans une zone sillonnée de câbles et de tubes facilement accessibles.
Nicolas Taneff.
Et puis sur le front diplomatique, Vladimir Poutine s'apprête à entériner l'annexion d'une partie significative de l'Ukraine.
À 14h, heure de Paris, Moscou annoncera officiellement le rattachement des 4 régions ukrainiennes à la Russie. Cérémonie suivie d'un discours de Vladimir Poutine et d'un concert géant à proximité du Kremlin. Processus nul et non avenu pour les Occidentaux, à commencer par les États-Unis. Jamais nous ne reconnaîtrons le résultat des référendums, affirme Joe Biden.
Les sports, la Coupe du Monde de foot, c'est dans moins de 2 mois, match d'ouverture prévu le 20 novembre à Doha, au Qatar. Les appels au boycott se multiplient. Dans les rangs des sportifs, la ministre des Sports a mis les choses au point sur Europe 1 hier soir.
Oui, elle était l'invitée d'Europe 1 Sport. La ministre n'est pas favorable à un boycott. Elle estime au contraire que ce mondial au Qatar permettra peut-être au pays d'avancer sur la question des droits de l'homme. On l'écoute.
Je pense que cette décision d'inscrire la Coupe du Monde au Qatar, elle a été prise il y a 12 ans, dans un contexte qui était différent à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on pèserait les critères de la même façon? Probablement pas. Il faut, et je trouve que les paroles d'Amnesty en ce sens étaient justes, il faut qu'on se serve maintenant de cet événement au Qatar pour faire levier et continuer de faire progresser la situation. Quand on voit les premiers progrès qui ont été faits dans les législations 2018-2020 sur la situation des travailleurs au Qatar, c'est encourageant. Il faut que ces progrès, ils se poursuivent, il faut que les engagements soient tenus. Voilà, c'est maintenant, ça n'est pas suffisant, c'est très clair.
Donc il ne faut pas boycotter, c'est pas la bonne solution.
Moi, je crois en l'action diplomatique.
Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, invitée de l'émission Europe 1 Sport hier soir.
Merci beaucoup, Christophe Lamarre. On vous retrouve à 8h30, plongé dans la pensée woke tout au long de ce vendredi sur Europe 1. Ce sera notre thématique du jour. Dans un instant, le professeur Jean-François Bronstein, auteur de La religion woke, paru chez Grasset il y a quelques jours, est notre invité. À tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Si je vous dis que rien ne prouve que je suis un homme, que tous les blancs sont racistes, mais en aucun cas les racisés, que la biologie
et viriliste, qu'il est plus juste de dire parent 1 et parent 2 que père et mère au nom de l'autodétermination de genre. Si je vous dis aussi qu'il est tout à fait légitime qu'une comédienne noire joue le rôle de la reine d'Angleterre dans une série historique. Ben voilà quelques énoncés de base de la pensée woke. Des médias, de plus en plus de politiques embrassent ces théories qui influencent de plus en plus aussi le discours officiel. Alors qu'est-ce que c'est exactement la pensée woke? D'où vient-elle? Bonjour Jean-François Bronstein.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeur émérite de philosophie à la Sorbonne. Vous signez en cette rentrée la religion woke chez Grasset. Alors avant de parler de la religion, d'où vient cette vague woke, Jean-François Bronstein? J'évoquais tout à l'heure la culture afro-américaine qui invente le mot au 19e siècle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire?
Aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez simples et qu'on pratique déjà tous les jours. C'est-à-dire, il y a deux ou trois propositions principales. Première idée, c'est le genre, c'est-à-dire la primauté de la conscience que l'on a d'être homme, femme ou n'importe quoi d'autre, qui passe avant le corps. Donc c'est l'idée qu'effectivement les corps peuvent être modifiés à l'envie.
Mon identité de genre, je la choisis par-delà la biologie. Quoi.
C'est ce qu'on enseigne maintenant aux enfants de plus en plus aux États-Unis. Ton genre, c'est toi qui le choisis. On leur enseigne ça autour de 5-6 ans. C'est la première proposition, si je puis dire, de cette religion woke.
Vous dites on l'enseigne à l'école?
Oui, bien sûr.
C'est le propos que les enseignants...
Oui, oui. En France aussi, on détricote le genre. Il y a des ateliers pour détricoter le genre, c'est-à-dire pour faire en sorte que les enfants vous comprennent que leur genre n'est pas obligatoirement lié à leur sexe, c'est-à-dire à leur corps. Donc c'est évidemment c'est une doctrine, c'est en ce sens que c'est une religion, c'est une doctrine vraiment stupéfiante, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'incroyable.
Quand les parents, on leur dit à l'école, par exemple, vous savez, le bleu, c'est pas que pour les garçons, les roses, c'est pas que pour les filles, les poupées, c'est pas que pour les filles, les petites voitures, pas que pour les garçons. Est-ce qu'on est déjà dans la pensée woke d'après
Absolument,
vous
il y a l'idée, par exemple, l'idée de dégenrer les cours d'école, ça suppose qu'effectivement, il faut casser les stéréotypes de genre. Oui. C'est d'ailleurs une des priorités du ministre de l'éducation nationale, c'est-à-dire faire en sorte que les garçons ne jouent plus au foot et que les filles ne discutent plus entre elles.
Alors ça c'est la dimension sexuelle, il y en a d'autres, mais une première question, en quoi ce serait mauvais de déconstruire ça, Jean-François Bronstein? En quoi c'est inquiétant?
C'est inquiétant parce que quand on a le sentiment qui est possible, hein, même si auparavant c'était très rare, qu'on ait une conscience dans un mauvais corps, on va essayer de changer le corps. C'est quand même très compliqué parce que le corps existe et nous sommes déterminés par nos corps. Or, on va voir qu'il y a un enthousiasme pour ce changement de genre qui va faire que des jeunes, et en particulier des jeunes filles adolescentes, qui sont mal dans leur peau, vont se dire « c'est sans doute que je suis dans le mauvais corps ». Donc c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire que si c'était des adultes consentants qui ont envie de changer de sexe, etc., ou de faire coïncider leur conscience de genre et leur corps, ça serait possible. Mais malheureusement, c'est aussi le cas de jeunes. Il y a une espèce d'engouement pour ce transgenre.
Il y a un autre concept qui est très important dans la pensée woke, c'est ce concept d'appropriation culturelle. Donc selon la pensée woke, seules les personnes noires peuvent défendre les noirs, seuls les pauvres peuvent défendre les pauvres, seul un indien peut jouer un indien au cinéma. Marion Cotillard, la comédienne, est attaquée parce qu'elle va incarner Cléopâtre, elle n'aurait aucune légitimité à cela. En quoi c'est de la pensée woke, ça, Jean-François Bronstein?
Parce que ça revient à l'idée que finalement, on n'existe que dans la communauté de naissance ou de choix que l'on s'est choisi. On n'existe pas comme un individu qui peut effectivement jouer toutes sortes de personnages. C'est-à-dire que le principe du métier d'acteur, c'est de pouvoir jouer toutes sortes de choses. On ne joue pas juste le rôle correspondant à la personnalité de l'acteur. Et donc ça, c'est effectivement une idée très woke, avec surtout l'idée qu'on ne peut pas se sortir de la communauté à laquelle on appartient. C'est une sorte de tribalisme, c'est une pensée tribale, c'est-à-dire qu'on doit être, si on est noir, on est toujours une victime, et si on est blanc, on est toujours un raciste, par exemple. Si on enseigne ça, là aussi, à des enfants à l'école, c'est une catastrophe. Et ceux qui protestent le plus contre cela, aux États-Unis notamment, ce sont souvent, par exemple, les parents noirs ou immigrés qui n'acceptent pas que l'on ait un espèce de fatalisme, un déterminisme comme ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien... ça dépend. C'est-à-dire que le racisme, c'est pas quelque chose qui est inhérent aux blancs, et la victimisation, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent aux autres origines, si je puis dire.
Mais il y a une part aussi là-dedans, vous parlez des communautés noires américaines, il y a une part de lutte sociale aussi là-dedans. Les inégalités entre les blancs et les noirs aux États-Unis sont quand même avérées. Mais vous dites, attention, parce que là où en fait on bascule, c'est que sous couvert d'antiracisme, en réalité c'est un discours raciste que l'on professe.
Oui, effectivement, c'est ça c'est ça qui est tout à fait choquant. C'est-à-dire que les propositions les plus antiracistes que l'on a tous l'habitude, enfin quand on n'est pas raciste, parce que ça existe, hein, y a des racistes partout, mais c'est de dire, par exemple, moi je me moque que vous soyez noir, blanc, jaune ou vert. Ça, c'est une proposition antiraciste classique, c'est une proposition universaliste. Quand on fait cours à des enfants à l'école aujourd'hui, enfin théoriquement en France aujourd'hui, on ne tient pas compte de la couleur. Or, pour les militants woke, ne pas tenir compte de la couleur, c'est le pire racisme. C'est ça le racisme. Il faudrait toujours tenir compte de la couleur pour discriminer à l'envers, pour lutter contre les discriminations passées. Et c'est ça qui est très choquant, je dirais.
Dire la couleur de peau n'importe pas, c'est perçu comme un subterfuge du dominant pour perpétuer la domination.
Parce qu'il n'y a que les blancs qui croient que la couleur de peau n'existe pas. Et donc, effectivement, il faut toujours rappeler la couleur de peau. C'est ça qui est très étonnant. Et là aussi, on voit le ministre de l'Éducation qui dit « C'est dommage, en France, on ne peut pas réfléchir sur le concept de race à cause de l'extrême droite. » Non, si on ne parle pas du concept de race en France, pas trop, ou si en tout cas on essaie de l'éviter, c'est qu'on est un pays républicain et universaliste. Je ne considère pas la couleur de peau de mes étudiants. C'est évidemment tout à fait dramatique parce que ça enferme les uns dans une conscience victimaire et les autres dans une conscience coupable.
Alors, exemple de dérive, faut prendre des exemples parce que sinon on a du mal à percuter. Aux États-Unis, par exemple, vous avez des penseurs qui disent « Regardez, les enfants noirs sont moins bons en mathématiques que les enfants blancs. » Conclusion qu'on en tire, il faut décolonialiser les mathématiques.
Oui.
Alors, ça veut dire quoi, ça ?
C'est quelque chose d'invraisemblable. C'est-à-dire qu'effectivement...
Comment on décolonialise les mathématiques, sur François Bronstein ?
C'est une catastrophe totale. C'est-à-dire qu'au lieu d'enseigner les mathématiques, aux enfants noirs en particulier, on va leur enseigner le rôle négatif des mathématiques dans l'histoire. Le calcul a été utilisé pour compter les gens sur les bateaux de négriers. La science occidentale a colonisé, etc. Et donc, il faut en finir avec cette science raciste, viriliste, colonialiste, etc. Et le résultat, c'est effectivement qu'on n'enseigne plus les mathématiques aux enfants noirs, comme s'ils n'avaient pas les mêmes exigences d'exactitude, de vérité, etc. Oui.
Alors, il y a tellement de choses à dire. Dans votre livre, vous abordez aussi aujourd'hui le fait que dans les grandes entreprises se développe ce que vous appelez un capitalisme woke, et ça passe à travers les politiques diversité, équité, inclusion. En quoi c'est inquiétant ? C'est ce que l'on voit dans de plus en plus d'entreprises aujourd'hui, s'y convertissent.
C'est inquiétant parce que ça suppose d'autres discriminations contre les anciennes discriminations. Évidemment, n'importe qui, tout le monde souhaite qu'il y ait une représentation plus équitable de toutes les origines dans une entreprise. Mais si on fait passer ça avant la compétence, évidemment, on arrive à des situations très dommageables, y compris pour, par exemple...
Le mérite dans tout ça.
Le mérite républicain, l'élitisme républicain, comme on dit, c'est quelque chose qui est critiqué, avec des conséquences négatives aussi pour les Noirs ou les femmes, etc., qui sont recrutées, dont on va penser qu'elles sont recrutées en raison de cela. Oui. Alors qu'elles sont recrutées, évidemment, en tout cas en France, en fonction du mérite, me semble-t-il.
Alors, allons au cœur de la théorie, de la thèse de votre livre. Vous dites, cette pensée woke, c'est pas un mouvement, c'est pas qu'une philosophie, c'est vraiment une religion. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une religion ?
J'ai longtemps cherché parce que je ne comprenais pas pourquoi des collègues que je connaissais depuis 30 ans, du jour au lendemain, basculaient dans cette histoire-là. Et effectivement, c'est une religion au sens où c'est une illumination. Ils ont le sentiment de vivre dans un nouveau monde. Ils sont réveillés à des vérités bizarres, comme le corps n'existe pas, la biologie n'est pas une science.
Le concept même d'éveil, d'ailleurs,
voilà,
en soi.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'idée d'être éveillé à autre chose. Et quand on est éveillé de cette manière, on ne discute plus avec ses contradicteurs. Il y a un refus radical de l'argumentation. Et il y a un prosélytisme énorme. Et il y a une critique effectivement, globalement, des Lumières. C'est-à-dire de tout ce qui fonde l'université républicaine et la cité républicaine, le rationalisme.
On n'est plus prêt à mourir pour quelqu'un, parce qu'il n'est, même s'il n'est pas d'accord avec
soi-même. On ne discute plus. Je cite un étudiant qui empêche un professeur de parler, qui veut argumenter avec lui, qui lui dit « Arrête de discuter, la logique c'est raciste. C'est dans une université. C'est le contraire de ce qu'on appelle l'université jusqu'à présent. »
Voilà, vous citez un penseur américain qui dit « Le mouvement woke, c'est un réveil religieux, mais sans Dieu et sans pardon. » Phrase terrible.
Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement l'idée de culpabilité qui existe dans le christianisme, mais la faute, le péché ici, c'est un péché qui n'a pas de rédemption. C'est-à-dire que si on est blanc, de toute façon, on reste blanc et on aura exploité les autres pendant les siècles des siècles. Il n'y a pas de rédemption du tout.
Merci Jean-François Bronstein d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. La religion woke, c'est paru ces jours-ci chez Grasset. C'est votre ouvrage et nous le recommandons. Merci d'être venu nous voir.
Merci beaucoup à vous.
7h23.
Europe Matin.
Alban Le Prince pour le journal permanent sur Europe 1.
Europe 1 est en Guyane aujourd'hui à l'occasion des assises de la sécurité en présence de Gérald Darmanin, Gabriel Attal et Éric Dupond-Moretti. Dans le territoire, la criminalité explose. 30 homicides depuis le début de l'année sur 300 000 habitants. La CGT revendique 250 000 manifestants. Le ministère de l'Intérieur en a compté 118 500. Mobilisation hier pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites, mais pas de quoi faire plier l'exécutif. Ce sera 65 ans à partir de 2031. Et puis vendredi, thématique sur Europe 1. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, aujourd'hui, on s'intéresse à la pensée woke. Qu'est-ce que c'est? Doit-on s'en méfier? Comment s'exprime-t-elle en France? Réponse à travers différents reportages et interviews toute la journée.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Paul,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Demain, samedi soir, c'est la nuit blanche à Paris et dans toute l'Île-de-France. De nombreux musées, salles de concert, lieux publics sont ouverts gratuitement. Et toute la nuit, bonjour Lord Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors la première nuit blanche à Paris, ça remonte à 2002, mais l'événement est alors perturbé par un incident.
Oui, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, est poignardé dans les salons de l'hôtel de ville dans le centre de la capitale. On est en pleine nuit, il est 2h30 du matin. Alors que la mairie est bondée de visiteurs, un inconnu se jette sur le maire de Paris. Ce témoin raconte.
J'ai vu M. Delanoë s'écrouler. Ils ont fait appel à un docteur. Il y avait un orchestre au fond de la salle. Il y avait une chanteuse. Après, ils ont fait sortir tout le monde des deux côtés du hall. Voilà.
L'agresseur, Azedine Berkane, est un homme de 39 ans, condamné pour des affaires de violence et de stupéfiants. Il dira avoir agi sous l'effet d'une pulsion parce qu'il n'aime pas les hommes politiques, particulièrement les homosexuels. Bertrand Delanoë est transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et opéré pendant 3 heures, récit du journaliste d'Europe 1 Mathieu Delahousse.
Le maire de Paris retrouve maintenant peu à peu ses esprits, mais les suites opératoires prendront du temps. C'est de son lit d'hôpital que Bertrand Delanoë suivra les développements de l'enquête autour de son agresseur.
Et cette nuit-là, la nuit de l'agression, Bertrand Delanoë demande que la fête continue à l'hôtel de ville, que la mairie reste ouverte au public.
Alors cette histoire, Laure, relance le débat sur la sécurité des personnalités politiques.
Oui, Bertrand Delanoë avait refusé d'avoir une protection rapprochée. Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur et proche du maire de Paris, s'exprime alors sur Europe 1.
Quand j'étais ministre de l'Intérieur, je lui avais proposé, mais il m'a dit « ça va mettre une barrière entre les gens et moi, et tu sais bien comment je suis ». Il y a, je dirais, de la démence dans cette société. C'est une question qu'il faut que nous nous reposions. La sécurité, c'est tout aussi cela, c'est ces actes fous, cette violence.
Un an et demi plus tard, la justice va rendre un non-lieu, déclarant que l'état mental de l'agresseur de Bertrand Delanoë le rend irresponsable pénalement et l'homme est interné en hôpital psychiatrique.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Allez, à suivre sur Europe 1, la pensée woke. Tiens, d'où vient-elle justement aux États-Unis? Soyez là dans un petit quart d'heure. Alexis Guilleux, le correspondant européen aux États-Unis, va tout nous raconter. J'ai plein de petites anecdotes pour vous. Tiens, il y a un auditeur sur les réseaux sociaux qui nous dit « Bon courage à celui qui voudra décoloniser la musique, une note blanche, ça vaut 2 notes noires. » Ben oui, il a raison, il faut compter. 7h26, à tout de suite. Le journal Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Avant d'aborder notre vendredi thématique, je voudrais vous présenter le docteur Wichou. 15 ans que ce médecin généraliste exerce dans les quartiers nord de Marseille. Fini. Il jette l'éponge. La semaine dernière, 2 hommes l'ont pris à partie dans son cabinet, agacés par une attente trop longue, une énième agression, celle de trop. Stéphane Burgat, correspondant à Marseille, l'a rencontré pour Europe 1.
C'est devenu un rituel pour le docteur Saïd Wichou.
Là, je suis obligé de fermer la porte pour que l'accès ne soit pas libre à mon cabinet. C'est le dernier moyen que j'ai trouvé pour me mettre un petit peu à l'abri.
Car l'agression dont il a été victime n'est hélas pas la première.
Ça arrive de temps en temps, c'est des gens qui viennent pour une consultation. Et la personne, non, il ne voulait pas attendre. Il tombe au ring sur la porte pour que je le prenne tout de suite. Il voulait me frapper. Et les patients dans la salle d'attente s'étaient interposés. Avant, ça arrivait une fois tous les 4 mois. Bon, maintenant, régulièrement, ça arrive plusieurs fois dans la semaine.
Le docteur Wichou a déjà porté plainte 5 fois, des dossiers tous classés sans suite, d'où son départ. Un échec, il le déplore, ses patients sont dépités et craignent que le quartier ne devienne un désert médical.
Je comprends pas, franchement, il est compétent, il est apprécié par tout le quartier. Bien sûr, c'est un problème, c'est pas bon, nous, on morfle, nous. Il n'y a pas suffisamment de médecins. Il y en a 2, les autres. À 10h, c'est complet. À l'après-midi, à 3h30, c'est complet. Et leur salle d'attente, elle est pleine.
Le cabinet fermera ses portes définitivement la semaine prochaine. Le médecin rejoindra, lui, le cadre plus sécurisant d'une maison médicale. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
7h32, histoire woke ce matin sur Europe 1. Vendredi thématique toute la journée consacrée à cette pensée woke, cette pensée éveillée en bon français. Son principe, la défense systématique des minorités contre toute forme de discrimination, une hypersensibilité également aussi à la moindre offense.
Et on a fait le choix ce matin sur Europe 1 de vous emmener à Sciences Po, Grenoble, considéré comme le temple du wokisme par ses détracteurs. Le point de départ, c'est une polémique l'année dernière. Un professeur suspendu depuis dénoncé la diffusion de théories woke de la part de ses collègues qui auraient même endoctriné les étudiants. Jean-Luc Boujon, vous avez rencontré ces élèves. Comment eux définissent la pensée woke ?
Eh bien, il est très difficile aujourd'hui de parler wokisme à Sciences Po Grenoble. Quand vous abordez le sujet avec les étudiants, ils se ferment ou détournent le regard. Les responsables des syndicats étudiants, eux, ont tout simplement refusé de me rencontrer. L'étiquette woke, personne ne la veut, à l'image de Thomas en troisième année.
Nous, on a souvent eu cette étiquette d'étudiant wokiste, de comme ça, il y aurait une dégénérescence, il y aurait... alors que pas du tout. On va essayer, je pense, plutôt de s'intéresser à sa portée politique. Nos enseignements ici nous permettent de le questionner, et justement en évitant des simplifications.
Idem pour Pierre en cinquième année, qui, même s'il reconnaît être en accord avec certaines idées, réfute le terme.
Le wokisme, c'est pas un truc dans lequel je me reconnais personnellement. Je dis plutôt comme une façon de voir les choses, qui est d'essayer justement de veiller à ce que les discriminations soient les moins présentes possibles. Ça peut être des discriminations ethniques, ça peut être des discriminations sexuelles. C'est la bienveillance, en fait.
Parmi tous les étudiants que j'ai rencontrés, Fiona est finalement la seule à assumer son wokisme, même si elle déplore l'usage qui est fait aujourd'hui de ce mot.
Il y avait quand même quelque chose de péjoratif derrière ce mot, utilisé pour disqualifier des comportements qui veulent un changement positif de la société, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être plus écologique, plus social, plus inclusif, sans opprimer des peuples, sans... voilà.
Et Fiona a même sa définition personnelle, le wokisme, c'est l'humanisme du 21e siècle.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Grenoble.
Alors, petit bémol, je le disais, la pensée woke, c'est aussi l'expression d'une hypersensibilité qui ne souffre plus grand-chose, qui réclame des lieux sûrs. D'où ça vient cette pensée? Nous serons avec Alexis Guilleux, le correspondant européen aux États-Unis, dans un instant pour remonter aux origines. Pour l'heure, 7h34, pas de concertation pour la France insoumise.
Oui, Jean-Luc Mélenchon ne discutera pas de la réforme des retraites avec le gouvernement. Une mascarade, je cite pour LFI, catégoriquement opposée au recul de l'âge de départ en retraite.
Et cela démarre mal pour l'exécutif qui se réserve d'ailleurs une porte de sortie.
Oui, la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors cap ou pas cap, la NUPES et le RN mettent au défi le président de la République, Emmanuel Macron, qui a menacé hier de retourner aux urnes si une motion de censure était adoptée dans l'hémicycle. Un vote qui renverserait le gouvernement. Bonjour Arthur Delaborde.
Bonjour.
Arthur, une dissolution de l'Assemblée nationale, ce n'est arrivé que 5 fois depuis 1958. Est-ce que le président compte vraiment sur ce scénario ?
Eh bien, pas vraiment. En réalité, Emmanuel Macron n'a absolument pas l'intention d'en arriver à une dissolution, mais il adresse une menace très claire aux oppositions. Pour que le gouvernement soit renversé, il faudrait en effet une alliance très large pour être adoptée. Une motion de censure devrait recueillir la majorité absolue des voix des députés et donc réunir la NUPES, le Rassemblement National et les Républicains. Étant donné le rapport de force politique actuel, les LR, eux, n'ont aucun intérêt à ce que les Français retournent aux urnes. Ils prendraient le risque de perdre des circonscriptions. Cette menace d'Emmanuel Macron a donc pour objectif de pousser les Républicains à soutenir sa réforme. Elle vise aussi à ramener le calme dans la majorité, notamment au MoDem de François Bayrou, qui a martelé son hostilité à tout passage en force. Or, le parti centriste n'a pas intérêt non plus à ce que des législatives anticipées soient organisées, alors qu'il n'a jamais autant pesé dans la majorité.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Alors hier soir, Olivier Véran était très clair. La retraite à 65 ans à partir de 2031, est-ce que c'est vraiment le scénario? Je vous rappelle que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est l'invité d'Europe 1 tout à l'heure à 8h13. Direction le Brésil maintenant. Jair Bolsonaro vit-il ses dernières heures à la tête du pays? Le Brésil vote ce dimanche pour l'élection présidentielle.
Oui, et deux camps diamétralement opposés s'affrontent. Le chef d'État d'extrême droite contre le socialiste Lula, figure de la politique brésilienne. Dernier débat télévisé hier soir.
Menteur, ancien détenu, traître de la patrie.
Le peuple va te renvoyer chez toi le 2 octobre.
Échange houleux, haineux presque entre les deux hommes. Lula reste pour l'instant le favori dans les sondages. Bolsonaro, lui, peut compter sur un soutien de taille. Neymar, qui a publié une vidéo hier soir sur les réseaux sociaux. Vote, vote et confirme, c'est Bolsonaro. Voilà pour les paroles, reprise donc par le joueur de foot brésilien qui se trémousse même sur la musique que vous venez d'entendre. 7h37, on quitte le Brésil et on change même de continent. Je vous emmène à 20 000 km de la France. que vous avez trouvé, Dimitri Fastoche,
hein. On dirait un AK.
Exactement, un AK féminin joué par l'équipe féminine de rugby, donc de Nouvelle-Zélande, le pays du ballon ovale qui accueille d'ailleurs le prochain mondial. Début de la compétition dans une semaine, samedi 8 octobre. Nos Françaises sont arrivées sur place. Dépaysement garanti avec Axel May pour Europe 1.
Tout sourire, la deuxième ligne, Céline Ferrer, montre ses bagages préparés pour la longue aventure néo-zélandaise qui les attend, elle et ses coéquipières.
Donc on a une grosse valise comme ça, une petite. Pour 2 mois, ça, il ne faut rien oublier, quoi. Notre trousse de toilette, essentielle.
La plupart des 32 joueuses retenues pour disputer la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande n'ont jamais eu l'occasion d'aller sur place, car dans ce rugby féminin, encore en construction et à la recherche d'argent, il n'y a pas, pour l'instant, de tournée d'automne dans l'hémisphère sud, comme chez ces messieurs. Arrivées à Auckland, les Bleus sont encore sous le coup du décalage horaire, explique par visioconférence la capitaine Gaëlle Hermé.
Gros trajet avec plus de 20 heures de voyage, voilà, il a fallu un petit temps d'adaptation. Non, les organismes vont bien. Les 2 premiers jours ont été un petit peu durs par rapport au décalage horaire surtout. Ça y est, là, on a réattaqué plein pot.
Dans cet hémisphère sud où le printemps débute à peine, de la pluie et 15 degrés attendent les Bleus ces prochains jours. Des Françaises qui vont découvrir cette terre de rugby où les filles, les Black Ferns, traduction les fougères noires, sont encore plus fortes que les All Blacks. Elles ont remporté 5 des 8 premières éditions de la Coupe du Monde.
Axel May du service des sports d'Europe 1. Et d'ailleurs, pour les Français, ça va démarrer très vite et très fort. Elles jouent le match d'ouverture du Mondial et elles affronteront l'Afrique du Sud, double défi. Les Françaises qui ne sont jamais allées plus loin que la 3e place en Coupe du Monde. Peut-être que ça va changer cette année.
Merci Romane. Okay. Tiens, bah, restez là 2 secondes. Et imaginez qu'un jour, un homme joue dans les rangs de ces fameuses fougères noires dont vient de nous parler Axel May. C'est pas impossible. Est-ce que vous connaissez Lia Thomas?
Pas du tout.
Voilà, petite histoire woke. Lia Thomas, nageuse transgenre, a très facilement remporté en mars 2022, le 500 yards nage libre des championnats universitaires féminins américains, et pour cause, Lia Thomas concourait encore dans les compétitions masculines 4 ans auparavant. Un homme, qu'on le veuille ou non, même s'il se sent femme, bah c'est 40% plus lourd qu'une femme, 30% plus puissant. Voilà, c'est ça aussi la pensée woke. D'où cela vient-il? Des États-Unis. Nous serons avec Alexis Guilleux, notre reporter européen, dans un petit instant, 7h39.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Allez, dans un instant, les perles de culture de nos 2 explorateurs du jour. Nicolas Caro.
Bonjour.
Bonjour. Alors, un classique de la littérature.
Immense classique. Truman Capote de sang-froid.
Ah, j'adore. Et les sorties musicales du jour. Bonjour Stéphanie Loire.
Ravi d'être une perle. C'est très agréable. Ce matin, je vais vous parler d'Arnaud, de son album posthume magnifique.
Ah, le boss de la chanson belge, exactement. Dans un instant. Mais d'abord, pour mieux comprendre l'histoire de ce mot woke dont nous faisons notre vendredi thématique sur Europe 1 toute la journée dans vos rendez-vous d'infos. Pour comprendre ce mot woke, il faut se rendre aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour Dimitri.
Vous êtes le correspondant européen à Washington. Woke, c'est un terme qui renvoie initialement au combat de la communauté afro-américaine.
Oui, c'est ça. Être woke, littéralement, cela signifie être éveillé dans le langage familier afro-américain. Dans les années 60-70, on parlait davantage de consciousness dans les mouvements comme celui des droits civiques, c'est-à-dire être conscient soi-même des inégalités que l'on a à affronter en tant que noir aux États-Unis. Woke, c'est donc un mot d'argot utilisé avant tout par la communauté afro-américaine qui va connaître un regain de popularité d'abord en 2008 avec cette chanson. Le titre Master Teacher de la rappeuse Erykah Badu. Quelques années plus tard, le mot woke est dans tous les esprits. Il va s'imposer dans les cercles militants avec l'émergence du mouvement Black Lives Matter en 2014. Le hashtag Stay Woke est alors l'un des plus partagés sur les réseaux sociaux. Il sert de cri de ralliement d'abord pour la communauté afro-américaine, avant de devenir en 2016-2017 un mot qui symbolise le fait de s'indigner contre les inégalités sociales, raciales, sexuelles et de genre. Une évolution qui accompagne en fait 2 événements politiques majeurs aux États-Unis, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et l'émergence du mouvement MeToo.
Alors Alexis, ce mouvement woke va être très rapidement critiqué, hein.
Oui, finalement, cette popularité s'accompagne quasi immédiatement de fortes critiques à cause d'événements qui ont fait du mal à ce mouvement. Parmi les exemples les plus connus, on retrouve le scandale de l'université d'Evergreen en 2017. Une initiative demandait aux étudiants blancs de rester en dehors du campus le temps d'une journée pour dénoncer symboliquement les discriminations. Un professeur s'y oppose, il est accusé de racisme et après de longues manifestations, il est poussé à la démission. En fait, les détracteurs du mouvement dénoncent surtout un état d'esprit, cette volonté de disqualifier l'autre parce qu'il n'a pas le bon avis. des critiques que partage également Barack Obama en 2019.
C'est une idée de pureté, de ne jamais faire de compromis, d'être toujours politiquement correct. Vous devriez oublier tout ça rapidement. Je vois un danger chez les jeunes, en particulier sur les campus universitaires, qui est accéléré par les réseaux sociaux. C'est de penser que le moyen de changer les choses est de porter le plus de jugement possible sur les autres. Et ça suffit. Comme si je pouvais tweeter sur le fait que tu n'as pas fait quelque chose de bien ou que tu as utilisé le mauvais verbe. Je peux m'asseoir tranquillement et me sentir plutôt bien dans ma peau. Tu as vu à quel point j'étais woke, je l'ai dénoncé.
La mise en garde de Barack Obama. Et aujourd'hui, Alexis, où en est ce débat sur la pensée woke aux États-Unis ?
Eh bien, les questions antiracistes sont revenues sur le devant de la scène après la mort de George Floyd en 2020, mais le mot woke disparaît peu à peu des cercles militants. Il est aujourd'hui surtout utilisé par les élus et les médias conservateurs. Fox News en tête, woke, c'est devenu un mot fourre-tout, vidé de son sens, qui sert en fait à dénoncer toute idée venue de la gauche. Et même dans les médias progressistes, c'est assez commun de se moquer, de parodier ceux qui pourraient être trop woke, trop politiquement corrects en quelque sorte. Mais en tout cas, le débat d'idées sur l'antiracisme est toujours très riche, très vivant aux États-Unis. Et plusieurs intellectuels, dont des Afro-Américains, n'hésitent pas à qualifier ce mouvement woke de nouvelle religion qui exacerbe les inégalités qu'il cherche à dénoncer.
Merci Alexis Guilleux, c'est exactement le propos que tenait Jean-François Bronstein, notre invité tout à l'heure à 7h12. Entretien à retrouver dans votre appli Europe 1 en podcast. Merci à vous Alexis Guilleux, 7h46.
Europe Matin.
Allez, place à la culture. Nicolas Carreau, le vendredi, toujours un grand classique, un roman culte. Et aujourd'hui, 30 septembre, eh bien, c'est la date anniversaire de l'écrivain américain Truman Capote. Et vous avez choisi de nous parler de son chef-d'œuvre, De sang-froid.
Truman Capote, né en 1924, mort en 84. Truman Capote, un authentique grand écrivain, en un seul mot. Petit déjeuner chez Tiffany, par exemple, tout le monde connaît. Et il n'a pas pu oublier tant que ça, finalement, Truman Capote, mais il a créé un style, une école, et notamment dans la catégorie narrative non-fiction, en bon français. Il faut dire qu'on n'a pas vraiment, nous, l'équivalent, même si Philippe Jaénada ou Emmanuel Carrère en écrivent avec beaucoup de talent. C'est une enquête.
C'est le récit adapté sur des faits réels, quoi, c'est ça ?
Voilà, c'est une enquête journalistique, mais avec une mise en scène de l'auteur, une subjectivité totale, et la forme, les techniques du roman. On dirait récit, nous, mais ce n'est pas tout à fait le bon terme, et le chef-d'œuvre du genre, c'est donc De sang-froid.
Alors, dans ce livre, l'écrivain Truman Capote se met lui-même en scène, il se rend dans un lieu où s'est déroulé un meurtre.
Exactement, nous sommes au milieu des années 60, Truman Capote est un écrivain new-yorkais très jet-set, très mondain. Un jour, il entend parler d'un terrible crime qui a eu lieu dans le Kansas en 1959. Deux hommes ont tué quatre membres d'une même famille de fermiers. Ils ont été arrêtés, ils risquent évidemment la peine de mort. Truman Capote s'y rend, il s'installe là-bas et il fait une véritable enquête. Il interroge tout le monde, il se rend sur les lieux, etc.
Et il rencontre même les assassins.
Oui, il veut comprendre comment on passe de marginal à criminel et il raconte tout. C'est pas donc un roman parce que tout est vrai, mais c'est pas non plus un travail de journaliste parce que donc il se met en scène, il ne cherche pas l'objectivité. Au contraire, c'est un texte tout à fait subjectif, mais c'est surtout incroyablement bien écrit. Écoutez la première phrase, c'est une de mes préférées de toutes les premières phrases. Le village de Holcombe est situé sur les hautes plaines à blé de l'ouest du Kansas. Une région solitaire que les autres appellent là-bas.
Wow, là-bas, ce là-bas est terrible. Hein.
Mais oui, ça c'est le style de Capote et c'est ce qui a marché. Il a d'abord publié le livre par épisode dans le New Yorker et puis en volume en 1966, 8 millions d'exemplaires vendus, mais il en a payé le prix. Truman Capote a été complètement fracassé par cette histoire. Il a assisté à leur exécution. C'est resté un traumatisme. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de dérangeant dans ce livre. Vous n'en sortez pas indemne.
Et oui, c'est ce qui fait la marque des grands livres.
Exactement,
toujours.
Absolument.
De sang-froid, Truman Capote, à lire ce week-end si vous ne l'avez jamais fait. Ça, je lis très rapidement d'ailleurs.
Oui, c'est 300 pages.
Oh, merci beaucoup Nicolas Carreau. À lundi. Maintenant, restez là. La musique avec Stéphanie Loire. Pour commencer, Stéphanie, l'album post du chanteur belge Arnaud.
Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité.
Arnaud, sa poésie rock, écorchée vive que vous entendez résonner dans vos oreilles et son timbre unique nous quittait le 23 avril dernier à l'âge de 72 ans après s'être battu contre un cancer du pancréas. Jusqu'à son dernier souffle, Arnaud, il a fabriqué ce qu'il savait être son ultime album, un disque intitulé Opex, du nom du quartier populaire de son enfance à Ostende, un véritable bijou porté par la verve de l'artiste comme une lettre d'adieu pour laquelle il s'est entouré de ceux qu'il aimait. Et puisqu'il en rêvait depuis 20 ans, il s'est offert un duo avec Mireille Mireille Mathieu, une reprise version reggae de la Paloma Adieu.
La Paloma Adieu.
La Paloma Adieu.
Adieu, c'est toi que j'aime.
C'est délicieusement décadent tout ça.
Mais j'adore. Alors le mélange reggae de Mireille Mathieu et Arnaud, c'est divin. Parmi les titres de ce 15e et dernier album studio d'Arnaud, le morceau « Court-circuit dans mon esprit », enveloppé dans les notes de piano du virtuose Sofiane Pamart, avec qui il avait d'ailleurs déjà collaboré en 2021.
Il y a un court-circuit dans mon esprit. Save me. Save me. Il y a un court-circuit dans mon esprit.
On s'y attend pas comme ça à 7h51. Bam, ouais. On se fait percuter par la mélancolie sur Europe 1.
OPEX, c'est l'ultime album du chanteur belge. Donc c'est pas Opération Extérieure, j'ai cru moi, mais pas du tout. C'est le quartier où il a grandi, à Ostende. Une nouveauté aussi qui concerne cette fois Red Car, un ex Christine and the Queens.
Christine and the Queens qui se joint désormais au masculin, qui était réapparu récemment à travers le personnage mystérieux de Red Car avec le titre Je te vois enfin. Il vient de dévoiler un nouveau morceau nommé Rien dire. Toujours très inspiré par les sonorités de la fin des années 80. Avec ce son synthétique que j'aime beaucoup.
Et chérie de la pensée woke, Christine and the Queens.
Exactement.
Parfait.
Pile dans le sujet.
Ouais, c'est vrai de nous avoir. Voilà, prochain album de Red Car, ça s'appelle Les Adorables Étoiles, en français. Hein.
Les Adorables Étoiles, en français. La sortie est décalée au 11 novembre prochain, puisqu'elle a été blessée. Il a été blessé, pardon, en répétition.
Ah bon? Mais comment s'est-il blessé?
Blessé, une blessure musculaire, puisqu'il danse.
Ah d'accord. Bon, ben on lui souhaite un prompt rétablissement dans ce cas-là. Merci beaucoup Stéphanie.
À la semaine prochaine.
Merci Nicolas, bon
Merci
week-end
beaucoup.
À tous les deux, 7h52.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité sur Europe 1, le journal permanent Alban Le Prince.
Et nos reporters Europe 1 sont en Guyane aujourd'hui à l'occasion des assises de la sécurité. Dès hier, le garde des Sceaux a annoncé l'expérimentation en janvier d'une brigade de soutien d'urgence pour soulager les tribunaux. Vendredi thématique, comme toutes les semaines aujourd'hui sur Europe 1, on s'intéresse à la pensée woke. Qu'est-ce que c'est? Comment s'exprime-t-elle en France? Toute la journée sur notre antenne, on va tenter d'y répondre à travers différents reportages et interviews. C'est une mascarade. La France insoumise refuse de participer au cycle de concertation sur la réforme des retraites annoncée par Elisabeth Borne. Toutefois, Emmanuel Macron a prévenu en coulisses, s'il y a motion de défiance, ce sera la dissolution de l'Assemblée.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
L'édito politique sur Europe 1, bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro. Alors quand je vous ai dit que nous consacrions notre vendredi thématique au wokisme, vous m'avez répondu « Oh mais super, c'est très politique tout ça ». Pourtant cette question du wokisme, on n'en a pratiquement pas parlé pendant l'élection présidentielle. Est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur avec des thématiques urticantes certes, mais qui restent électoralement marginales?
Je voudrais, cher Dimitri, vous répondre par une anecdote. Alors, ça se passe au Figaro dans les années 2013-2014. Et deux journalistes que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, Guillaume Perrault et Vincent Trémollet de Villers, font appel pour le site et les pages du journal à un jeune essayiste à peu près inconnu. Et dans ses papiers, cet essayiste raconte un pays bizarre où l'homme est toujours coupable d'être un homme, le blanc toujours coupable d'être un blanc, où l'on ne s'excuse jamais assez de l'oppression que l'on ferait subir aux minorités raciales, aux minorités sexuelles, ni des crimes que, du seul fait d'exister, on commettrait contre l'environnement. Ce pays, c'est le Québec, et cet essayiste, vous l'avez reconnu, c'est Mathieu Bock-Côté.
Voilà, qu'on connaît bien sûr.
Oui. Et à l'époque, nous, on trouvait ces articles passionnants, un peu effrayants, étourdissants d'humour, d'érudition, mais enfin, quand même assez loin de nous. Et on en plaisantait avec lui, on disait « Écoute, dans ton pays, c'est vraiment des dingos, heureusement les Français ne sont pas si bêtes, tout ça n'arrivera jamais chez nous. » Et Mathieu, avec cet accent inimitable, que donc je n'imiterai pas, s'emportait et disait « mais non, détrompez-vous, dans moins de 10 ans, ces folies auront traversé l'Atlantique, vous verrez. » Et nous, nous rigolions de ces marottes. Mais nous avions tort, Et il avait raison. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle religion victimaire est partout. Oui. Et évidemment, elle a fait son nid dans les partis politiques.
Voilà ce qui se passait sur les campus. Bah, désormais, nous vivons tous sur le campus d'une certaine manière. Je vois où vous voulez en venir, Alexis. Vous allez vous en prendre à, par exemple, l'écoféminisme de Sandrine Rousseau, qui veut interdire le barbecue, symbole de virilité toxique, comme elle dit.
Oh non, loin de moi cette idée. Au contraire, vive Sandrine Rousseau. Elle est formidable, Sandrine Rousseau. Il en faudrait davantage comme elle. Elle est tellement excessive, tellement caricaturale, tellement arrogante, tellement sectaire, qu'à force de dénoncer ses camarades, elle finirait par rendre anti-woke un congrès entier de la NUPES. Pardon, il me semble qu'il y a beaucoup plus insidieux que le wokisme virulent de Sandrine Rousseau. C'est le wokisme hypocrite, par exemple, de Pam Ndiaye, le ministre de l'Éducation, qui, ces jours-ci, a attendu d'être à Washington pour critiquer la France, sont lui incapables d'affronter, je cite, « les questions ethno-raciales parce que, je cite encore, l'extrême droite y est puissante. » Mais Dimitri, est-ce que vous vous rendez compte de l'invraisemblable retournement ? Il n'y a pas si longtemps, c'est de parler de race qui vous valait d'être accusé d'appartenir à l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est quand vous vous y refusez au nom de l'universalisme républicain que vous encourrez les foudres des nouveaux bien-pensants. Mais c'est fou !
Vous pensez vraiment que tout cela finira par avoir une traduction électorale, Alexis ?
Écoutez, moi, je ne vois pas très bien comment une vague idéologique aussi puissante n'en aurait pas. Cette vague, elle a submergé l'université et noyé Sciences Po. Elle a déferlé sur les médias dits progressistes, où une jeune génération de garde woke, comme on disait garde rouge, fait désormais la loi. Elle a envahi l'école, où dès la maternelle, on apprend aux puéricultrices à déconstruire les stéréotypes de genre. Elle est portée par les réseaux sociaux, les plateformes numériques. Elle s'est même installée au cœur du système, dans les départements RH ou les services de com des grandes entreprises capitalistes. J'ajoute qu'elle a aussi changé notre façon de parler. Vous savez, l'exaspérant toutes et tous, le ridicule celles et ceux. Elle prétend en outre changer notre façon d'écrire en imposant son affreux point médian. Et elle s'arrêterait au pied des urnes ? Franchement, ce serait bien étonnant. Mais en revanche, dans quel sens jouera-t-elle ? C'est une toute autre question qu'on peut se poser. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Il ne vous aura pas échappé, cher Dimitri, que le rejet de l'immigration, la lutte contre l'idéologie de genre, l'exaltation de la famille traditionnelle auront compté parmi les principaux ressorts de la victoire de Giorgia Meloni.
Oui, la vie politique est un éternel balancier. Merci beaucoup, Alexis Brézet. Je signale la une du Figaro ce matin. La hausse des taux d'intérêt secoue le marché immobilier. Merci à vous, Alexis. Bon week-end. 7h57.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Car nous sommes le vendredi 30 septembre, nous fêtons Saint Jérôme, saint patron des biblistes aujourd'hui, sachez-le, juste après le journal de 8h à 8h13. L'invité d'Europe Matin, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. A tout de suite. Vendredi 30 septembre, il est 8h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, immigration hors de contrôle, insécurité galopante, trafic de drogue. Bienvenue en Guyane. Trois ministres sont à Cayenne aujourd'hui pour les assises de la sécurité. La rédaction d'Europe 1 les a précédés. Les vendredis thématiques d'Europe 1 également, comme chaque semaine. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la pensée woke, qualifiée de religion par Jean-François Bronstein. Le philosophe était l'invité d'Europe 1 ce matin, vous l'entendrez dans un instant. Et puis Emmanuel Macron est actuellement dans l'avion, direction Pau, où l'attend de pied ferme son allié François Bayrou. Ou quelques frictions entre les deux hommes ces dernières heures sur la réforme des retraites. Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un territoire français où le chaos s'est installé. Au moins 30 homicides depuis le début de l'année en Guyane. Ce matin sur Europe 1, on vous emmène à Cayenne, gangréné par la violence et le trafic de stupéfiants. Trois ministres s'y rendent aujourd'hui. Gérald Darmanin, Gabriel Attal et Éric Dupond-Moretti participent demain aux Assises de la Sécurité. Bonjour William Molinier.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Cayenne. Dans un instant, vous nous raconterez la violence qui règne en Guyane. Mais d'abord, parlons de drogue. Chaque année, 4 tonnes de cocaïne arrivent dans l'Hexagone par les vols Cayenne-Paris. Ces trois derniers mois, les mules qui transportaient moins d'un kilo 5 de poudre blanche étaient libérées. Elles n'écopaient que d'une interdiction de prendre l'avion à Cayenne avec inscription au fichier des personnes recherchées. Une expérimentation judiciaire qui prend fin aujourd'hui.
Mais oui, son objectif, diminuer la charge du trafic de stupéfiants qui pèse de plus en plus lourd sur les tribunaux. Le reportage de Caroline Baudry.
Quelqu'un qui arrive avec des ovules plein le ventre, je peux vous garantir qu'elle n'est pas sereine, hein, parce que
que s'il y a un ovule qui craque, c'est l'overdose.
Ce genre de scène est quotidienne pour Olivier Laury, policier aux frontières à l'aéroport de Cayenne. Chaque jour, en moyenne, 3 avions décollent direction Paris. Des dizaines de mules embarquent dans chaque appareil. La cocaïne est cachée dans leurs affaires ou ingérée sous forme d'ovules, de grosses gélules remplies de poudre blanche. 1 à 4 mules par vol sont interpellées par son équipe.
Quand on lui pose des questions basiques de contrôle de police, que la personne ne sait même pas où elle va en métropole, on a déjà un gros doute. Dépistage urinaire, une prise de sang et un IRM. Une fois que la personne elle est interpellée, ils lui fournissent un traitement pour qu'elle expulse les ovules.
La méthode des narcotrafiquants, le recrutement de rue et l'appât du gain. La moitié des Guyanais vit sous le seuil de pauvreté, alors gagner jusqu'à 8000 euros en 8 heures de vol devient pour certains une évidence. Morgane Fournier est avocate à Paris. Elle défend des passeurs arrêtés à leur arrivée en métropole.
Des très jeunes majeurs qui sont sans emploi. Il y a eu une période où c'était des femmes enceintes, une façon de dissimuler justement le produit ou en tout cas le sentiment qu'on viendrait moins les contrôler. Des gens qui généralement sont dans une situation financière extrêmement précaire, voire qui sont parfaitement pris à la gorge.
Mais face à l'ampleur du phénomène, l'abandon des poursuites est une aberration selon Yvanne Goua. Elle est porte-parole de l'association Trop Violent qui sillonne la Guyane pour empêcher les jeunes de céder aux trafiquants.
C'est du sabotage. On a toujours demandé des peines qui soient plus lourdes, qui puissent être compréhensibles pour un jeune et qui puissent dire aux trafiquants justement non, je ne veux pas le faire parce que ça va me coûter cher.
L'expérience qui avait provoqué un tollé s'arrête. Sur place, des moyens supplémentaires sont réclamés pour contrôler davantage de voyageurs à l'aéroport et poursuivre les mules dans les tribunaux.
Alors, reportage éloquent, Caroline Baudry. On voit les autorités littéralement débordées par ce trafic de drogue. 3 ministres donc se rendent en Guyane aujourd'hui. William Molinier, qu'attendent les Guyanais de cette visite ?
Eh bien, c'est d'avis unanime, un département en souffrance, en proie à une violence endémique. Les armes à feu circulent facilement ici. Il y a même une ruelle dans le quartier le plus chaud de Cayenne que les habitants appellent le couloir de la mort. En raison des règlements de compte, 30 depuis le début de l'année, principalement liés au trafic de stupéfiants. Cayenne, c'est surtout une plaque tournante de la cocaïne en Amérique du Sud et une porte d'entrée vers l'Europe. La frontière avec le Suriname et le Brésil, 1240 km, est impossible à sécuriser, d'où une immigration totalement incontrôlée.
Alors William, dites-nous exactement qu'attendent les Guyanais véritablement de cette visite ?
Alors le mot qui revient le plus, c'est le besoin de sécurité. Seuls 4 équipages de police la nuit à Cayenne. Régulièrement, la métropole envoie des gendarmes mobiles en renfort. Les Guyanais ont développé une forme de résilience. Écoutez Naël, un des fondateurs de l'association de réinsertion, les Frères de la Crique.
On en a vu plein passer des ministres. J'ai pas vu d'effets significatifs. Quand tu regardes qu'il y a 30% de chômage, imagine-toi 30% de chômage dans l'Hexagone. C'est la guerre civile, c'est sûr.
53% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est une certitude. Les réseaux de trafiquants n'ont jamais eu autant de facilité à recruter aujourd'hui dans les quartiers pauvres de Cayenne.
William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 à Cayenne. Noté qu'hier soir, à son arrivée sur place, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a annoncé la création d'une brigade de soutien d'urgence à la cour d'appel de Cayenne avec 10 magistrats qui alterneront tous les 6 mois entre la Guyane et l'Hexagone.
8h06, les vendredis thématiques sur Europe 1. Aujourd'hui, toute la journée dans vos rendez-vous d'infos, on essaye de mieux comprendre ce que signifie la pensée woke.
Traduisez être éveillé, particulièrement sensible en fait aux questions d'identité des personnes transgenres, des différentes religions, origines, couleurs de peau, avec une volonté poussée à l'extrême de reconnaître la différence de chacun. Pour le philosophe Jean-François Bronstein, cette conception de la société est un véritable culte. C'est d'ailleurs le titre de son livre, La religion woke. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin.
C'est une religion au sens où c'est une illumination. Ils ont le sentiment de vivre dans un nouveau monde. Ils sont réveillés à des vérités bizarres comme le corps n'existe pas, la biologie n'est pas une science.
Même d'éveil d'ailleurs.
Voilà,
en soi.
C'est ça, c'est vraiment l'idée d'être éveillé à autre chose. Et quand on est éveillé de cette manière, on ne discute plus avec ses contradicteurs, il y a un refus radical de l'argumentation, et il y a un prosélytisme énorme, et il y a une critique effectivement globalement des Lumières, c'est-à-dire de tout ce qui fonde l'université républicaine et la cité républicaine. Oui. Je cite un étudiant qui empêche un professeur de parler, qui veut argumenter avec lui, qui lui dit « arrête de discuter, la logique c'est raciste ». C'est dans une université. C'est le contraire de ce qu'on appelle l'université jusqu'à présent.
Jean-François Bronstein, auteur du livre La religion woke, invité ce matin d'Europe 1.
8h07, Emmanuel Macron se rend à Pau ce matin dans les Pyrénées-Atlantiques. Le chef de l'État va inaugurer un centre culturel dans le fief de François Bayrou.
Une visite qui intervient au lendemain d'une journée de grève pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites. 1200 manifestants dans les rues de Pau hier. Une ville dont le maire, bien qu'allié d'Emmanuel Macron, avait réclamé davantage de concertation sur les retraites. Alexandre Chauveau.
Oui, et il a été en partie entendu, même si la position de François Bayrou sur les retraites a fait l'objet de vives remontrances mercredi soir à l'Élysée. Emmanuel Macron a finalement tranché. Le texte devra être présenté en décembre pour un vote d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. 3 mois de concertation donc, comme un gage donné sur la forme par le président à François Bayrou, qui n'hésite pas à marquer ses désaccords. Le patron du MoDem entend bien peser sur ce quinquennat, conscient, comme Édouard Philippe, que la majorité relative à l'Assemblée renforce son poids politique. Lui qui a échoué 3 fois à l'élection présidentielle jouit d'un rôle de premier plan auprès du chef de l'État, nommé secrétaire général du Conseil national de la Refondation, toujours haut commissaire au plan. Le Béarnais aime ironiser en privé sur l'âge qu'il aura en 2027, 76 ans, soit 2 ans de moins que Joe Biden lorsqu'il a été élu à la Maison-Blanche. Manière de montrer qu'il n'a pas totalement renoncé à ses ambitions. La visite de ce matin devrait confirmer qu'avec Emmanuel Macron, la relation reste amicale mais franche.
Alexandre Chauveau du service politique.
En bref, à Rennes, de violents affrontements hier soir entre des fêtards et des policiers dans le centre-ville.
Les heurts ont débuté après 22h en marge d'une fête sauvage. Jusqu'à 200 personnes étaient présentes. Le calme est revenu vers 1h du matin.
Et puis indépendante depuis hier soir, russe dès cet après-midi, Vladimir Poutine entérine les résultats des référendums dans les régions ukrainiennes occupées par l'armée russe, les régions de Kherson et Zaporijjia.
Immense fête et concert, grand concert prévu à Moscou. Dès 14h, Vladimir Poutine annoncera l'extension de son pays. Pour Joe Biden, ces nouvelles frontières n'existent pas.
Je veux être très clair à ce sujet. Les États-Unis ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l'Ukraine. Ces référendums sont une véritable honte, avec des résultats fabriqués à Moscou.
Joe Biden, qui a donc hier soir, cette nuit donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies examinera pour sa part aujourd'hui une résolution condamnant ces pseudo-référendums russes. Le veto de Moscou devrait cependant empêcher le vote.
Et puis l'ouragan Ian continue sa route, direction la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie.
Oui, il laisse derrière lui une Floride dévastée, au moins 12 morts et plus de 2,3 millions de foyers et commerces privés de courant. Ce pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride, selon le président américain. Un mot de sport pour terminer. Angers-Marseille ce soir, 9e journée de Ligue 1 à vivre évidemment sur Europe 1, dans Europe 1 Sport en direct et en intégralité. Il y aura quand même 44 matchs à venir pour Marseille d'ici la Coupe du Monde. Ça va être le grand rush avant le Qatar.
Merci. 11 matchs, 44 matchs, ça fait beaucoup. Non,
c'est
non, 11.
Vous avez raison.
Dans 44 journées.
J'ai tellement hâte de les voir jouer.
Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait un match tous les 4 jours. C'est un rythme relevé.
Difficile à soutenir. Oui.
Merci beaucoup Fanny Marceau. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Et l'invité d'Europe Matin va notamment parler avec lui d'énergie. A tout de suite.
Europe 1.
Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bienvenue sur Europe 1. Finissez votre verre d'eau tranquillement. Ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Vous êtes inquiet pour cet hiver, Bruno Le Maire ?
Non, je ne suis pas inquiet, mais je suis avec tout le gouvernement, avec la Première ministre, totalement déterminé à apporter les bonnes réponses sur la question stratégique qui est la question du prix de l'énergie. Ça va être la question qui va nous occuper, qui nous occupe depuis des semaines, le prix de l'énergie
et la
disponibilité de l'énergie pour les ménages comme pour les entreprises.
Donc la question de prix, c'est l'urgence du moment, pas les pénuries éventuelles.
C'est l'urgence absolue, ça a été l'urgence pour les ménages. Et je crois que ce qui singularise la France, c'est d'avoir, à la demande du président de la République, depuis 2021, c'est-à-dire avant tous les autres États européens, anticiper cette flambée des prix et mis en place un bouclier énergétique. Pour un coup, je tiens à le dire, parce qu'on voit aujourd'hui les annonces que fait le gouvernement allemand, qui représentent près de 100 milliards d'euros sur 2021, 2022, 2023.
L'Allemagne a annoncé 200 milliards hier.
Ça nous a permis, parce que l'Allemagne a réagi plus tard, que l'Allemagne est plus dépendante du gaz russe, et donc elle a pris cette mesure et qu'elle a aujourd'hui une inflation qui est de près de 10%. La France a réagi très tôt, a mis 100 milliards d'euros sur la table, à une inflation qui est la plus basse de tous les pays de la zone euro et aujourd'hui protège mieux que n'importe quel autre pays européen nos compatriotes contre la flambée des prix du gaz et contre la flambée des prix de l'électricité. Je rappelle que si on n'avait pas pris ces mesures-là, les factures augmentaient de 180 euros pour l'électricité et 200 euros par mois pour le gaz au mois de janvier. Là, ce sera uniquement 15%.
Alors, on aura d'ailleurs le chiffre de l'inflation en septembre, les chiffres provisoires, tout à l'heure, hein, dans une petite demi-heure. Vous signez ce matin dans le journal Les Échos, Bruno Le Maire, une tribune conjointe avec votre homologue allemand, le vert Robert Habeck, pour dire, en substance à l'Union européenne. Voilà le message. Il faut prendre des décisions maintenant. Il faut surtout simplifier le système des aides en direction des entreprises.
Il y a deux messages dans cette tribune qui est un acte politique important de la part du gouvernement allemand et du gouvernement français. Le premier message, c'est que l'Allemagne nous rejoint sur cette idée que nous défendons avec Emmanuel Macron depuis septembre 2021. Il faut découpler le prix du gaz et le prix de l'électricité et il faut avoir des prix plus bas. C'est-à-dire que pour la première fois, l'Allemagne reconnaît que la priorité absolue, c'est d'abord de faire baisser les prix de marché qui s'envolent de manière totalement délirante avec des mouvements spéculatifs qui sont insupportables pour nos concitoyens et insupportables pour les entreprises. C'est le premier message. Il faut de manière urgente que la Commission européenne nous fasse des propositions concrètes dans les jours qui viennent pour faire baisser les prix. Parce que ces prix, ils mettent en péril notre tissu productif et nos entreprises.
Mais la formule 1,
et le deuxième message, c'est qu'il faut que la Commission européenne simplifie le dispositif d'aide parce qu'il est trop compliqué et que vous avez beaucoup d'énergéticiens aujourd'hui qui ne peuvent même pas l'appliquer. Beaucoup d'entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, ça peut être aluminium Dunkerque, ça peut être Arc, qui ne peuvent pas disposer des aides auxquelles pourtant elles auraient droit parce que les critères sont trop compliqués. Ils doivent être simplifiés. Ils le seront en octobre.
Vous risquez, mais très concrètement, quelles sont ces entraves aujourd'hui dans ce dispositif d'aide, Bruno Le Maire, très concrètement, pour que les Français se rendent compte?
Très concrètement, on demande, pardon, d'être un tout petit peu technique et que l'entreprise ait un EBITDA, un résultat négatif sur 3 mois. Le malheur, c'est qu'une entreprise industrielle, si elle a un résultat négatif sur 1 mois, en général, elle arrête sa production ou elle la réduit ou elle licencie. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. Oui. Donc nous voulons des dispositifs qui soient beaucoup plus rapides à mettre en œuvre pour ne pas menacer l'emploi ni l'activité industrielle. On voit aujourd'hui en Allemagne certaines entreprises qui délocalisent leurs activités vers des pays où l'énergie est moins chère. J'ai vu en France, j'étais dans la vallée de l'Arve il y a quelques jours, en Haute-Savoie, des entreprises qui réduisent leur production parce qu'ils disent « désolé, ça nous coûte trop cher de produire ». Donc il faut des aides qu'on puisse débloquer plus rapidement et puis des aides plus massives. Aujourd'hui, le plafond maximum, c'est 50 millions d'euros. Nous voulons qu'il soit doublé à 100 millions d'euros.
Vous avez parlé de délocalisation industrielle, c'est vrai. Le journal Le Monde de rapporter des entreprises allemandes qui prennent cette décision en catimini. Elles ne le disent pas publiquement, mais c'est ce qu'elles font. Est-ce que vous craignez que tous les efforts pour lesquels vous militez depuis longtemps, de réindustrialisation, de relocalisation dans le pays, que tout ça soit fichu par terre par l'actuelle crise des prix de l'énergie? Je donne ce chiffre aux gens, c'est Patrick Artus dans Les Échos qui le dit ce matin. Il dit pendant au moins 2 ans, les prix de l'énergie seront 7 fois plus élevés en Europe qu'aux États-Unis. 7 fois plus élevés.
Je pense que c'est très dur de faire des prévisions comme cela. Quand on regarde aujourd'hui les niveaux de prix, personne n'avait anticipé qu'ils flamberaient à ce point-là. Nous avions anticipé qu'ils augmenteraient, mais pas qu'ils flamberaient de manière aussi significative. Donc moi, ma responsabilité n'est pas de faire des plans sur la comète, c'est de protéger les entreprises.
Et donc, mais vous avez des signaux absolue, elles vous disent, moi j'arrête certains projets de relocalisation.
Moi je pense que la relocalisation, c'est un mouvement très profond, qui est un mouvement qui est en marche. On le verra sur l'industrie automobile dans les prochains jours. On l'a vu sur les semi-conducteurs avec l'investissement de GlobalFoundries, 6 milliards d'euros à Kroll près de Grenoble. C'est un vrai mouvement de relocalisation. Donc on le voit sur beaucoup d'activités. On le voit sur l'hydrogène avec la Première ministre. On a lancé les 10 nouveaux projets sur l'hydrogène qui font de la France aujourd'hui la première nation en Europe en termes d'investissement sur l'hydrogène. Donc ce mouvement, il est très profond, il est engagé et à mon sens, il est irréversible. Mais il doit se faire dans les meilleures conditions économiques possibles. Ça veut dire aider des entreprises à passer le cap sur l'énergie, faire baisser les prix d'énergie sur les marchés. Et ça veut dire une troisième chose aussi qui me tient très à cœur. C'est que les fournisseurs d'énergie, Total, Engie, EDF, jouent le jeu. Et je vais vous dire, au fond de mon sentiment, qu'aujourd'hui, ils ne jouent pas suffisamment le jeu avec leurs clients. Ça veut dire qu'ils proposent des tarifs raisonnables à leurs clients, notamment les PME, dans des conditions raisonnables, c'est-à-dire les possibilités de réviser si jamais les prix baissent, et avec des délais raisonnables, c'est-à-dire la possibilité pour l'entreprise d'examiner le contrat sans qu'ils aient le couteau sous la gorge en disant « il faut vous signer demain parce que les prix sont trop volatiles ».
Mais c'est quoi un prix raisonnable, Bruno Le Maire? C'est un prix de marché.
Mais c'est ce que nous allons discuter. C'est un prix de marché, mais ce n'est pas le prix anticipé à 2 ou 3 mois. Moi, j'ai très concret avec vous. J'ai des patrons de PME qui viennent me voir, qui me montrent ce que leur proposent les fournisseurs d'énergie, c'est-à-dire des prix de l'ordre de 600 ou 700 euros le mégawattheure. Là où les fournisseurs d'énergie anticipent un prix à 200 ou 300 euros. Alors là, vous voyez, c'est le cas de le dire, il y a deux fils qui se touchent. D'un côté, l'énergéticien qui me dit « Nous, on anticipe qu'à échéance de 2, 3, 4 mois, on sera plutôt à 200, 250 euros le mégawatt. » Et le même énergéticien qui va proposer à un patron de PME un tarif moyen à 500 euros le mégawatt. Donc ça n'est pas acceptable. Donc nous réunirons avec Agnès Pannier-Runacher.
Donc ce sont des profiteurs de crise.
Prochain.
Ce sont des profiteurs de crise, comme
pas,
le disent les certains membres de l'opposition.
Je ne vais pas pointer du doigt les uns ou les autres. Je dis simplement que ma responsabilité, c'est l'ordre public économique. Donc la garantie que tout le monde est solidaire dans ces périodes de crise énergétique. Donc nous réunirons avec Agnès Pannier-Runacher, mercredi prochain à 8h30, pour être tout à fait précis, tous les énergéticiens, pour leur demander de signer un code de conduite, une charte d'engagement, dans laquelle ils s'engageront à fournir à toutes les PME françaises des tarifs d'électricité et d'énergie raisonnables, dans des délais raisonnables, avec des conditions raisonnables.
Alors, il y a cette idée, une forme de contrôle des prix, Bruno Le Maire, si je vous ai bien compris. Il y a une autre voie, c'est laisser les énergéticiens gagner beaucoup d'argent et puis aller derrière avec une taxe sur les super-profits.
C'est ce que nous faisons, même si je n'appelle pas ça taxe sur les super-profits, mais prélèvement de la rente, ça me paraît un vocabulaire plus juste. Mais c'est ce que nous faisons déjà. Et très honnêtement, c'est ce qui finance notre bouclier énergétique.
Oui, c'est ce qui va financer notre bouclier énergétique. Mais Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, a dit clairement cette semaine à l'Assemblée nationale, devant cette commission parlementaire, cette mission flash qui reçoit les patrons, les énergéticiens, a dit « Moi, s'il y a une taxe nationale qui est mise en place comme ça, c'est simple, je vais investir ailleurs. Je vais partir. »
Mais ça tombe bien parce que ce sera non pas une taxe nationale, mais un prélèvement européen. Les taxes, d'abord, on les prélève sur ce qu'on produit. Donc, on ne va pas prélever des taxes sur le gaz ou sur le pétrole. Elles sont déjà prélevées à l'étranger, là où Total produit du pétrole. Mmh. En revanche, c'est normal qu'on récupère les rentes sur la production d'électricité lorsque les prix flambent. Et c'est exactement ce que nous faisons. Je rappelle que nous garantissons les prix à tous ces énergéticiens pour qu'ils investissent dans l'éolien, qu'ils investissent dans le solaire lorsque les prix sont bas. Là, c'est l'État qui paye. Quand la situation se renverse, que les prix flambent, et que par conséquent, les énergéticiens arrivent à avoir des bénéfices exceptionnels sans faire d'investissement supplémentaire, il est légitime que nous récupérions cette rente. Et nous le faisons. Ça nous a rapporté 8 milliards d'euros en 2022 et ça nous rapportera 20 milliards d'euros en 2023. Ça finance quasiment la moitié du bouclier énergétique pour les ménages français et pour les petites entreprises.
Alors, beaucoup de sujets, Bruno Le Maire. On avance les retraites, la réforme des retraites. Une concertation va donc s'ouvrir. Elisabeth Borne l'a dit hier matin. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, disait hier soir sur BFM TV très clairement « Non, mais d'ici à 2031, nous voulons un départ à la retraite à 65 ans. » C'est-à-dire que la réforme, elle est déjà écrite par-delà l'engagement à concerter, Bruno Le Maire ?
Mais elle a déjà été proposée par le président de la République dans sa campagne et validée par nos compatriotes en choisissant Emmanuel Macron, en lui donnant un second mandat.
Il avait aussi
en lui
dit une majorité 63, 64 ans
à l'Assemblée nationale.
Discutons.
Le projet du président de la République, c'est 65 ans en 2031, avec un point très important qui doit rassurer tout le monde, avec une clause de rendez-vous en 2027, quand on sera quasiment à 64 ans. Donc je pense que c'est à la fois efficace comme réforme, et puis c'est juste parce qu'il ne faut pas oublier la contrepartie de cela, c'est la garantie d'un minimum contributif à 1100 euros qui fait aussi partie de la proposition de campagne du président de la République. Avec ça, on a un dispositif qui est à la fois efficace et juste. Et surtout...
Mais justement, vous voyez les boucliers se lever, Bruno Le Maire. On va vous dire, oui, mais quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans, travailler jusqu'à 65 ans, ça n'est pas juste.
Ça s'appelle les carrières longues. Oui. Nous maintiendrons évidemment ces dispositifs de carrières longues. Et si nous ouvrons avec la Première ministre une concertation, c'est bien pour écouter les critiques, les propositions, les améliorations de tout le monde. La seule chose que je tiens à rappeler, comme je le fais depuis des mois, pour ne pas dire des années, c'est que la réforme des retraites, c'est le pilier du financement de notre modèle de protection sociale.
Alors,
c'est la garantie que nous maintiendrons un modèle de protection sociale qui soit juste, qui soit solidaire et qui reste équilibré. Je vais vous dire ce que rapporte une réforme des retraites comme celle-là pour les équilibres financiers du pays. Je le dis comme ministre des Finances. D'abord, ça vous permet d'avoir des moindres dépenses qui sont de l'ordre de 9 milliards d'euros. De l'autre côté, vous allez avoir des dépenses supplémentaires de personnes qui vont rester en inactivité ou qui seront en invalidité. Au total, ça vous rapporte déjà de 4 à 5 milliards d'euros du point de vue budgétaire. Mmh. Mais le plus important, c'est que ça augmente le volume global de travail du pays. Et nous, notre évaluation, c'est qu'à échéance de 2027, ça fait un point de richesse nationale supplémentaire pour le pays. Ça fait 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour le pays. Mmh. Et ça fait 240 000 emplois supplémentaires pour la France. Ça veut dire que la réforme des retraites est une garantie de prospérité et de plein emploi pour le pays. C'est pour ça que c'est aussi important d'avancer dans cette réforme. On ne la fait pas pour le plaisir de la faire, on la fait pour la prospérité de nos enfants et de nos petits-enfants, pour l'équilibre de nos comptes sociaux et pour le plein emploi qui, je le rappelle, est l'objectif stratégique de cette majorité.
Et les régimes spéciaux, Bruno Le Maire ? Va-t-on supprimer les régimes spéciaux dans cette réforme ? Est-ce que vous le souhaitez ? Est-ce que ça fait partie des volontés du président de la République ?
Cela faisait partie du projet du président de la République. Je pense qu'il faut ouvrir la discussion. À partir du moment où on ouvre une discussion, il ne faut pas la refermer d'emblée. Et je pense que c'est important de poser les choses sur la table. Pour moi, l'élément central, clé de la réforme des retraites, c'est le décalage de l'âge légal. C'est ce qui donne de la puissance et de l'efficacité à cette réforme.
Alors, ce n'est pas un sujet très grand public, Bruno Le Maire, mais c'est un sujet qui est très important. Depuis 48 heures, la Banque centrale d'Angleterre lance un plan de sauvetage massif de la monnaie britannique, la livre sterling. En fait, les marchés n'ont pas du tout aimé les réductions d'impôts qui sont promises par Liz Truss, nouvelle première ministre britannique, qu'elle entend financer par de la dette. Comment vous regardez ça, Bruno Le Maire, vous, en tant que ministre des Finances ? Est-ce que vous vous dites, est-ce que l'euro ne serait pas le prochain sur la liste des marchés qui pourrait être amené comme ça à tester la solidité de l'euro et voir comment réagirait la Banque Centrale Européenne. Est-ce que ça fait partie des sujets qui vous préoccupent à l'heure où l'on voit l'euro considérablement affaibli par rapport au dollar notamment ?
Non, je ne suis pas inquiet de la situation de la zone euro. En revanche, je suis inquiet de la situation britannique. Mais qu'est-ce que ça montre ? Ça montre tout d'abord que les coûts en matière de politique financière, de politique économique, ça ne marche pas. Quand on fait des grands coups comme cela avec des annonces spectaculaires, comme le propose d'ailleurs certaines oppositions en France, ça perturbe le marché, ça perturbe les équilibres financiers et ça conduit à un véritable désastre avec des taux d'intérêt qui sont de 4,5% ou même un peu plus en Grande-Bretagne. Nous, nous gardons des taux d'intérêt qui restent raisonnables, qui restent assez proches des taux allemands parce qu'il y a de la constance dans la politique économique et financière de la France. La deuxième chose, c'est que sortir de l'Europe, c'est un coût considérable. Parce que l'Europe, c'est une protection. Et être aux côtés de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, des autres membres de la zone euro, avoir de la concertation dans nos politiques économiques, regarder comment est-ce qu'on fait face ensemble à l'inflation, comment est-ce qu'on va ensemble, on y revient, faire baisser les prix de l'énergie, ben c'est une vraie protection. La zone euro nous a protégés pendant la crise du Covid, nous a permis de lever des montants de dette considérables à des taux très intéressants. Ça a sauvé notre économie, il faut que chacun le réalise. Sans l'euro et sans l'Europe, nous n'aurions pas pu sauver notre économie comme nous l'avons fait. Ben, même chose face à l'inflation, c'est pour ça qu'avec Robert Habeck, nous prenons cette initiative de dire qu'il faut que la Commission européenne réagisse plus vite sur les marchés de l'énergie. Solidarité, donc efficacité.
Merci Bruno Le Maire.
Merci Dimitri
d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Merci à vous, bonne journée. 8h28 sur Europe 1, le programme continue dans un instant. Catherine Ney, son regard sur l'actualité et justement sur la réforme des retraites. Elle nous racontait la semaine dernière, Catherine, comment s'était déroulée la réforme de 2010. Et puis Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées. Ce matin, deux femmes face à face, Sandrine Rousseau, Giorgia Meloni. A tout de suite.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h31 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Christophe Lamarre.
Une mascarade, la France insoumise tacle sévèrement le cycle de concertation sur la réforme des retraites annoncée par Elisabeth Borne. Le parti de Jean-Luc Mélenchon refuse de s'y associer. Le gouvernement déterminé à faire passer sa réforme qui prévoit un report de l'âge légal. Ce sera 65 ans à partir de 2031. Colère des syndicats et de l'opposition qui fourbit ses armes. S'il y a motion de censure, ce sera la dissolution, prévient Emmanuel Macron. Retour au calme dans le centre de Rennes après une nuit marquée par de violents affrontements. Une centaine de personnes, dont certaines étaient cagoulées, se sont opposées aux policiers qui tentaient de mettre fin à une fête sauvage. Au tir de mortier d'artifice, les forces de l'ordre ont répondu par des gaz lacrymogènes. Vladimir Poutine entérinera cet après-midi le rattachement à la Russie des quatre régions ukrainiennes, celles où se sont tenus les référendums d'annexion. Cérémonie officielle au Kremlin prévue à partir de 14h, heure française. La Floride dévastée par le passage de l'ouragan Yann, au moins 12 morts selon un premier bilan et des destructions d'une ampleur rarement vue. Plus de 2 millions de foyers et de commerces sont toujours privés d'électricité. Les vendredis thématiques d'Europe 1, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la pensée woke. De quoi s'agit-il ? Comment cette idéologie importée des États-Unis se traduit-elle en France ? On vous donne quelques clés tout au long de la journée avec des reportages, des interviews et des invités. Le football, fin de la trêve internationale et reprise du championnat de Ligue 1 ce soir avec le début de la 9e journée. Marseille se déplace à Angers, coup d'envoi à 21h. Quant au rachat de l'Olympique lyonnais par le milliardaire américain John Textor, on vient d'apprendre que l'opération est reportée. C'est ce qu'indique à l'instant le club sans plus de détails.
Merci beaucoup Christophe. Le temps, Anissa Haddadi, est une vraie journée d'automne au programme.
Mais oui, les journées d'automne commencent avec des brouillards. Soyez très prudents. Tiens, je remercie Flavienne qui m'envoie des photos depuis chez elle à Audierne dans le Finistère où le brouillard est très impressionnant puisqu'on ne voit pas la commune d'en face qui est de l'autre côté de la rive. Donc soyez patiente Flavienne, soyez tous patients. Les brouillards vont se lever, ces nuages bas présents sur quasiment toute la France vont se lever pour laisser place à de belles éclaircies. C'est vrai que la journée est plus agréable. On a un temps sec quasiment partout, encore quelques pluies sur les Pyrénées-Atlantiques ce matin, des flocons sur les Pyrénées à 1700 mètres d'altitude, et puis un temps un petit peu plus agité en Corse avec des averses, quelques coups de tonnerre et un peu plus de nuages. Et plus les heures passeront, plus le soleil sera présent. Ça va se couvrir dans la journée sur le Finistère et les côtes de la Manche. Alors côté température, on aura 13 degrés cet après-midi à Saint-Étienne, 15 à Besançon, 19 à Paris et jusqu'à 25 degrés pour Bastia.
Merci beaucoup Anissa, à 8h34.
7h, 9h,
Europe Matin.
C'est l'heure des signatures Europe 1 et le vendredi, vous le savez, c'est Eugénie Bastier pour sa vue de presse hebdo des aidés sur Europe 1. Bonjour Eugénie.
Bonjour Dimitri.
Dans un instant, je vous donne la parole car avant, nous écoutons Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde.
Alors, un dîner à l'Élysée pour mettre toutes les options sur la table sur la réforme des retraites et trancher, on y va, c'est sûr. Mais alors quand, comment, quoi, cette affaire de retraite, c'est loin d'être réglée. Hein.
Oui, en réalité, c'est un président agacé. Il avait besoin de recadrer son monde qui a réuni le gratin de la Macronie. Elisabeth Borne, sept ministres de poids, l'indispensable Richard Ferrand, ils étaient 21. Et François Bayrou, allié ô combien difficile, qui s'est permis d'arriver avec une demi-heure de retard. Mais sans lui, ce dîner, il faut bien le dire, n'aurait pas eu lieu. Reculer l'âge de la retraite à 65 ans est peut-être la seule chose que l'on a retenue de sa campagne présidentielle. D'où son idée, faire passer cette réforme via le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans le texte budgétaire, un amendement. Ça passerait par le 49-3. Pourquoi attendre, dit-il. On connaît par cœur les positions de tout le monde. La discussion a déjà eu lieu pendant 2 ans. Rien n'a changé. Donc, ainsi, l'affaire serait réglée avant Noël. Mais reconnaissons que sa proposition a surpris tout le monde.
Et alors, objection, votre honneur. François Bayrou, haut commissaire au plan, secrétaire du général du Conseil de la Refondation, donc, dit non.
Oui, alors, il aurait pu le dire en tête-à-tête au président. Mais non, il l'a déclaré aux Parisiens. Pas question de passer en force, surtout quand on a promis une nouvelle méthode de concertation avec les Français. Façon de morigéner publiquement ce président téméraire. Lui, il prône une large concertation et avance qu'une loi pourrait être adoptée durant l'été 2023, mais pas maintenant. François Bayrou, évidemment, se garde bien de dire ce qu'il veut mettre dans la loi. Je n'ai jamais vu François soutenir une seule réforme, s'agace l'un de ses vieux amis. Et cerise sur le gâteau, il laisse fuiter l'idée, comme ça, qu'il pourrait être candidat à la présidentielle en 2027, puisqu'Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter. De quoi lui donner des boutons.
Voilà, on n'est pas aux pièces, il dit François Bayrou. Mmh. D'où l'utilité de ce dîner. Hein.
Oui, alors, le président a bien rappelé qu'il en allait de son autorité, qu'il ne prenait pas les Français en traite, puisqu'il en leur avait déjà parlé dans sa campagne. La France, dit-il, doit être au diapason de tous les pays autour de nous. Cessons de vaticiner. Et François Bayrou de tacler. Mais personne ne se soutient, ne se souvient de vos engagements de campagne. Et Emmanuel Macron de répliquer, il y en a qui ont voulu être président 3 fois. Moi, j'ai été élu 2 fois, donc on appliquera mon programme. Un an, j'ai passé. On passe autour de table. Les grands ministres disent, en gros, il faut aller vite, battre le fer tant qu'il est chaud. Ils sont à peu près une dizaine sur cette ligne. Elisabeth Borne est plutôt pour une discussion qui pourrait durer 2 mois, avec elle, Richard Ferrand pense qu'il faut rassurer les Français, bien expliquer. Il y a plusieurs options, soit une réforme, une loi ad hoc où l'on mettrait l'essentiel de ce que l'on entend faire avec soit un vote normal ou bien elle serait incluse dans un budget social rectificatif en janvier, évidemment adopté par le 49-3. Ainsi serait-elle votée avant l'hiver pour être appliquée dès l'été. Ainsi, François Bayrou ne viendra pas parader dans les médias puisque lui parlait de discussion pendant l'été. Vous voyez, les saisons sont appelées à la rescousse.
Bon, donc résumé, Bayrou-Macron, c'est pas le grand amour en ce moment et la réforme, bah, on n'y voit pas vraiment plus clair. Hein.
Non, mais ce flou à la fois sur le calendrier exact et le fond, c'est Emmanuel Macron qui le veut. Il l'a dit. Ne dites rien de ce qu'on va faire, donnons-nous un délai, n'abattons pas nos cartes, que ça nous priverait de marge de manœuvre. Mais évidemment, il risque d'y avoir du tohu-bohu à l'Assemblée nationale.
Eh oui, une motion de censure guette, attention, danger.
Je ne veux pas lâcher en lit, a répondu Emmanuel Macron. le mot du général de Gaulle en 68. Dans ce cas, dit-il, je déciderai la dissolution dans la minute qui suit. Il aurait pu ajouter, et c'est pas du bluff. Oh. Un acte d'autorité, donc, mais qui a peur de la dissolution, peut-être les députés, mais pour être adopté, il faudrait 289 voix, l'ensemble de la NUPES, plus le Rassemblement National et les Républicains. Scénario improbable, la marche est trop haute.
Oui, à qui profiterait la dissolution? C'est ça la grande question. Merci beaucoup à vous, Catherine Ney. Tiens, je signale le nouvel épisode cette semaine de votre podcast Les Inséparables, les amants de Neuilly, Nicolas Sarkozy et Cécilia. Il est formidable. C'est à écouter depuis lundi. Eugénie Bastier, votre revue de précepto des idées sur Europe 1. Vous vous arrêtez sur un fait, sur une idée majeure qui a traversé l'actualité. Et vous nous parlez ce matin de deux femmes politiques qui sont à la une de la presse internationale et française.
Oui, elles ont quelques points communs. Elles sont toutes les deux nées dans les années 70. Ce sont toutes les deux des femmes de leur temps qui manient à merveille l'univers médiatique et les réseaux sociaux. Et elles font toutes les deux très peur, mais à des publics différents. Vous avez deviné de qui je parle.
Oh, petite idée, oui.
À ma droite, j'ai nommé Giorgia Meloni, la dirigeante du parti Fratelli d'Italia, sortie vainqueur des urnes en Italie le week-end dernier. À ma gauche, évidemment, Sandrine Rousseau, la députée EELV qui met le feu à l'actualité chaque semaine. Commençons par Giorgia Meloni. Une grande partie de la presse française, notamment l'AFP et le service public, a utilisé un mot pour la qualifier. Post-fasciste. Un mot aussi flou qu'inquiétant, destiné à faire peur plutôt qu'à comprendre. Un mot qui n'est d'ailleurs pas ou très peu utilisé dans la presse italienne. Un mot, comme le rappelle l'historien Frédéric Lemoyle, spécialiste du fascisme dans le Figaro, qui est de nature à jeter de la confusion dans le débat politique.
Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de Giorgia Meloni? Est-ce qu'elle est post-fasciste, tiens?
Alors, l'Europe doit-elle s'inquiéter? C'est la une, justement, de l'hebdomadaire The Economist, avec la photo en noir et blanc de Giorgia Meloni. À l'intérieur des pages, le ton du journal très libéral se veut rassurant. En gros, je vous la fais courte, les marchés ne laisseront pas faire la dirigeante italienne et sa marge de manœuvre est très limitée dans une Italie surendettée. Comme l'explique Gilles Gressani, le directeur de la revue Le Grand Continent dans Le Monde, il faut se débarrasser du ton apocalyptique que l'on prend lorsqu'on évoque ces élections italiennes. Je le cite, « 100 ans après la marche sur Rome, l'histoire ne se répète ni en tragédie ni en farce. En réalité, Madame Meloni n'incarne pas le retour du fascisme, mais l'apparition d'une nouvelle formule politique que l'on pourrait désigner par le néologisme de techno-souverainisme. »
Oh, qu'est-ce que c'est ça ?
Alors, le techno-souverainisme, c'est un souverainisme qui a intégré les contraintes technocratiques, qui ne veut plus rompre avec l'Union européenne, qui ne veut plus sortir de l'euro, qui ne veut pas, qui s'est aligné sur l'OTAN contre la Russie et qui promeut en même temps des valeurs très conservatrices et veut lutter, par exemple, contre le wokisme. Giorgia Meloni est extrême, mais elle n'est pas un tyran, écrit pour sa part le journaliste au New York Times, Mattia Ferraresi, qui affirme que l'Italie ne deviendra pas la prochaine Hongrie. Pour le Financial Times, Giorgia Meloni a un talent inné pour l'ambiguïté. C'est bien ça qui caractérise la dirigeante italienne. Selon le directeur du journal conservateur italien Il Foglio, la grande force de la Meloni, comme on l'appelle, c'est justement cette plasticité, cette ambiguïté et même cette incohérence idéologique qui font qu'elle n'est pas dogmatique et qu'elle s'adaptera probablement aux circonstances.
Alors venons-en à la femme politique du moment en France, qui n'est pas de droite, c'est Sandrine Rousseau. Ouais.
Oui, qui aurait dit il y a tout juste un an, alors qu'elle sortait perdante de la primaire écologiste face au mâle blanc Yannick Jadot, que Sandrine Rousseau donnerait le la de l'actualité au début de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. En effet, il ne se passe pas une semaine sans que la députée écologiste ne fasse polémique. Le délit de non-partage des tâches ménagères, la virilité toxique du barbecue, le droit à la paresse, jusqu'au déballage de la vie intime de Julien Bayou. Sandrine Rousseau fait cette semaine la une de deux hebdomadaires opposés en France. Le coup d'éclat permanent, titre l'Obs. L'épuratrice, titre Valeurs Actuelles, qui fustige le monde terrifiant créé par Sandrine Rousseau. Mais c'est dans Marianne que vous lirez le portrait le plus renseigné de la députée, écrit par le journaliste Adrien Matou. La Zemmour de gauche, y lit-on, sait très bien ce qu'elle fait. Son objectif n'est pas sa réélection, mais la révolution. Un vers, mi-admiratif, mi-inquiet, confie. Sandrine est tout sauf dingue. Elle est calculatrice et déterminée. Pour elle, la fin justifie les moyens. Il ne faut pas avoir peur de Giorgia Meloni ni de Sandrine Rousseau, mais il faut les prendre très au sérieux, car elles sont peut-être le visage idéologique de la droite et de la gauche de demain.
La Zemmour de gauche, très jolie formule d'Adrien Matou qu'on entend régulièrement sur Europe 1. Merci beaucoup Eugénie Bastier. Tiens, je vous propose de rester un petit peu avec nous parce que le wokisme dont vous avez parlé, vous connaissez très bien. Eh bien, c'est notre rendez-vous vendredi thématique cette semaine. Philippe Val, dans un instant, est avec nous, de même que Dora Mouto. Elle est elle-même féministe, mais alors elle est durement attaquée par les tenants de la pensée woke ces derniers temps. 8h42, à tout de suite.
Europe Matin, 7h, 9h. Dimitri.
Dimitri Pavlenko.
Europe 1 se plonge toute la journée dans la pensée woke. Vendredi, thématique dans tous vos rendez-vous d'info, Europe Midi, Europe Soir également. Il est un champ de bataille investi par les militants qui se disent éveillés. C'est celui de la sexualité, plus précisément l'identité sexuelle, pardon, l'identité de genre. Pour les woke, hein, ce n'est pas la nature qui vous fait garçon ou fille, homme ou femme. Non, c'est une conviction intime et personnelle, eh bien, qui peut parfois prêter à confusion. Écoutez.
Non mais moi je suis si, moi, non mais attendez, les vieux réflexes sexistes...
Je ne suis pas un homme, monsieur.
Vous n'êtes pas un homme.
Ah non, 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme.
Votre apparence?
Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir.
Comment vous définissez-vous?
Comme non-binaire.
Comme non-binaire. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc.
Bah non.
C'est-à-dire?
Bah non, je suis à moitié libanais.
Non, mais c'est
intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser.
Voilà, extrait d'une émission Arrêt sur image hein, en 2018, très intéressant. Donc ne dites plus homme ou femme, les choses ne sont pas aussi binaires, aussi catégoriques, tout est beaucoup plus fluide. Bonjour Philippe Val.
Bonjour Dimitri.
Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous ce matin. J'accueille également Dora Moutot. Bonjour Dora.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ancienne rédactrice de Combini, vous avez été chroniqueuse sur France 2. Oui. Aujourd'hui, vous êtes militante féministe, vous tenez notamment un compte Instagram qui s'appelle Tajoui et vous avez signé un livre qui s'appelle Mal baiser, c'est chez Guy Trédaniel, livre qui dénonce le patriarcat sous les draps. Alors, on pourrait au premier abord, Dora, pardonnez-moi, mais vous croire woke, sauf que lutter contre le patriarcat, c'est has-been pour les woke aujourd'hui parce que vous avez des problèmes avec certains d'entre eux.
Oui, j'ai un petit problème avec tous ceux qui croient à la notion d'identité de genre. Parce que pour moi, être une femme, c'est être une femelle adulte humaine. Mmh. Et ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas une identité, c'est quelque chose qui est vécu dans un corps de femme, dans sa chair, et c'est bien réel.
J'ai oublié de dire que Jenny Bastier est restée avec nous. Elle connaît beaucoup ces sujets-là, donc son regard nous intéresse. Alors, vous dites quelque part, oui, alors je suis féministe, certes, mais il y a une frontière indépassable, c'est la biologie, la nature m'a faite femme. Mmh. Et en cela, vous dites que vous êtes femelle. Listes.
Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, je suis obligée de me détacher du mouvement féministe actuel qui appelle à une alliance trans et féministe, chose auquel je ne crois pas du tout. Je pense que la lutte féministe et le transactivisme ne peuvent pas aller ensemble, parce que pour moi, être féministe, c'est justement se battre contre les stéréotypes de genre, lorsque là, en fait, ben, le transactivisme met justement le genre au centre. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour moi, être une femme et être une féministe, c'est se battre pour les droits sexués des femmes.
Alors là, je suis sûr qu'on a perdu quelques-uns de nos auditeurs, parce qu'on est dans des concepts qui ne sont pas évidents, mais on va donner un exemple très complet, très concret. Voilà. C'est justement l'affaire qui vous cause problème aujourd'hui, Dora Moutot. Il y a quelques semaines, vous vous êtes dressée contre une campagne lancée par le planning familial. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est une affiche dessinée par un dessinateur qui affirme de manière très claire qu'un homme peut tout à fait être enceint. Il n'y a pas de problème, Dora Moutot. Qu'est-ce qui vous choque, vous, dans cette assertion?
En fait, ce qui me choque, c'est que finalement, en faisant ça, le planning familial commence à faire la promotion de l'idéologie transgenre. Mmh. Et moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que quelque part, en faisant ça, le planning familial est en train d'annoncer que va y avoir distribution, entre guillemets, d'hormones de transition. Ce qui se passe déjà aux États-Unis, le planning familial aux États-Unis est un des plus gros distributeurs d'hormones de transition dans le pays. Donc moi, ça, c'est mon inquiétude quand je vois...
Donc hormones de transition, c'est-à-dire des traitements qui permettent de changer,
bloquer l'évolution sexuelle.
Oui. Non, alors ça, c'est les bloqueurs de puberté. Les hormones de transition, c'est par exemple, un homme va prendre des œstrogènes et une femme va prendre de la testostérone pour changer son allure, pour que sa voix change. Une femme va commencer à avoir de la barbe, un homme va avoir le visage qui se féminise un peu, etc. Et en fait, ce qui est intéressant sur ce sujet de l'homme enceint, c'est que l'homme enceint, c'est une réalité en France. C'est une réalité administrative dans le sens où on peut tout à fait transitionné depuis 2016, tout en gardant en fait son utérus. Donc on peut littéralement ressembler à un homme parce qu'on prend de la testostérone, mais on garde son utérus.
Un homme enceint, donc ce serait très concrètement une femme qui a fait le choix de prendre des hormones masculines afin de ressembler à un homme, tout en ayant conservé son appareil génital, son appareil reproducteur, et porter un enfant, mais en ayant l'apparence d'un homme et en se sentant masculin à l'intérieur d'elle-même, c'est ça?
C'est exactement ça. Et aussi, si on regarde à l'inverse, par exemple, un pénis de femme existe. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être...
Vous en avez vu ?
Oui, enfin, non, j'en ai pas vu. Enfin, sur Internet, on peut en trouver. Mais ceci dit, oui, enfin, on peut tout à fait aujourd'hui avoir sur ses papiers d'identité femme, tout en gardant en fait son pénis, ses testicules, sa prostate, etc.
Eugénie Bastier, vous qui suivez ces questions-là, alors il y a le débat intellectuel, mais quelle est l'ampleur du phénomène dont nous parle Dora Mouto ? On sait qu'aux États-Unis, ça commence à se voir. En France, c'est anecdotique.
Je me souviens qu'il y a quelques années, il y a cela presque 10 ans, en fait, au moment de la manif pour tous, on parlait beaucoup de la théorie du genre. Et la ministre Najat Vallaud-Belkacem avait dit que la théorie du genre n'existe pas. Et il me semble qu'on est maintenant passé. On a dépassé un peu ce déni, parce que beaucoup de gens reconnaissent qu'elle existe et qu'elle est bien à l'œuvre dans la société. Et je pense que tout cela, en fait, tourne autour du rapport entre nature et culture, c'est-à-dire que les théoriciens du genre pensent que la nature n'existe pas. Or, je pense, moi, que la différence des sexes, et je suis d'accord avec Dora Mouto, est biologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait qu'il faille figer les hommes et les femmes dans des stéréotypes ou une essence, mais il faut prendre en compte ces corps qui existent, sinon on ne peut pas répondre aux problèmes concrets des femmes. Les femmes, elles tombent enceintes, elles ont un rapport à la maternité différent parce que leur corps existe. Et je pense que ce déni-là, il est ravageur pour l'existence concrète des femmes.
Alors la conviction intime d'être ce qu'on n'est pas forcément, il y a une histoire que j'ai trouvée sur Internet ahurissante d'un jeune Britannique. 8 opérations chirurgicales en 2 ans, il a 18 ans. Hein, parce qu'au fond de lui, il se sent coréen, donc il s'est fait brider les yeux, il a le visage totalement déformé, mais il le dit, je ne suis pas britannique, je suis coréen. Donc la nationalité, l'endroit où vous êtes né, ça ne compte pas en réalité par rapport à la conviction interne, sa conviction intime. Tiens, Philippe Val, j'ai repris votre dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, décidément je le consulte beaucoup. Vous avez une jolie phrase à propos, au terme woke, vous dites... Dans le monde woke, comme dans la nature, il n'y a que des victimes et des prédateurs. Diverses études révèlent d'ailleurs que les militants woke sont généralement les enfants de parents surprotecteurs, issus de la classe bourgeoise. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ?
Eh bien, on a fait des études assez approfondies, cette étude à laquelle je me réfère. Les enfants, les étudiants woke, généralement, ont été des enfants auxquels les parents ont épargné tous les conflits. Et y compris dans la cour de récréation quand ils étaient petits. Dès qu'il y a eu un problème avec un autre enfant, on a eu recours à l'autorité. Et ils ne se sont pas fait à l'altérité. Ils n'ont pas fait le cal, comme on pourrait dire. Hein, voyez. Et donc, à chaque fois qu'il y a un conflit, on a recours à l'autorité. On a recours à la direction de l'école, à la présidence de l'université. On a recours au procureur de la République. Mais jamais on peut régler un conflit personnel avec une personne. On a un désaccord, un conflit plus ou moins violent.
On discute, on s'engueule et on
règle le problème. Ouais. Non, c'est un recours constant à l'autorité par des gens hyper protégés.
Oui. Et
le wokisme, il vient de là beaucoup.
Oui, et d'ailleurs, il y a un livre de 2 intellectuels américains, Jonathan Haidt et Greg Lukianoff, qui s'appelle Coddling the American Mind. C'est le chouchoutage de l'esprit américain qui montre très bien comment on a trop chouchouté toute une génération qui n'est plus habituée au conflit. C'est ce qu'on appelle les snowflakes, les flocons de neige en américain. C'est-à-dire des gens en fait fragiles qui n'arrivent pas à réagir au moindre conflit, qui politisent le moindre conflit. Et c'est assez dangereux parce qu'on arrive dans un monde de plus en plus tragique, un monde où il y a le retour de la guerre, où il y a le retour des pandémies, de sujets très très importants. Et on a une génération qui est complètement inadaptée à ce monde-là puisque un simple mot peut les blesser, les mettre dans un état de frustration et de colère inimaginable.
Et dans ce cas-là, on cherche à vous annuler, d'où la fameuse cancel culture. C'est ce que vous avez vécu, vous, Dora Mouto, pour filer un peu la conversation.
Je vis un harcèlement depuis 3 ans sur Internet, que ce soit Instagram, Twitter, etc.
Qu'est-ce qui vous vaut toute cette haine ?
C'est tout simplement le fait de dire qu'une femme est une femelle adulte humaine. C'est aberrant, c'est délirant, mais il y a toute une génération, en fait, je dirais les moins de 25 ans, pensent sincèrement au premier degré qu'être une femme est un ressenti. Et du coup, on me traite de personne d'extrême droite, de fasciste, de complotiste, enfin, la totale, quoi.
C'est toujours un extrémisme. Enfin, on est rejeté vers l'extrême droite en général. Alors que les gens qui contestent cette idéologie woke, la plupart des gens qui contestent ça sont des gens simplement universalistes qui reconnaissent très bien que des hommes peuvent se sentir mal dans un rôle d'homme et qui peuvent avoir envie de s'habiller. Enfin, tout ça n'est pas en question. Oui. Ce qui est en question, c'est d'être dans un mauvais corps. Comme s'il y avait un esprit qui est un bon esprit et un corps qui est mauvais. Ce qu'il y a de pire dans les religions monothéistes, c'est-à-dire le mépris du corps.
Alors, ce qui est difficile à comprendre, Eugénie Bastier, c'est que la pensée woke, il y a filiation, il y a continuité entre ce que l'on vient de dire à propos de l'identité sexuelle, mais aussi des identités raciales, de cette racialisation de la question sociale qu'on voit à l'œuvre en Amérique.
Et moi, c'est ce qui me fascine dans cette pensée woke, c'est que
finalement, elle prétend prôner l'émancipation, mais en réalité, on se retrouve avec une multiplication des étiquettes qui sont extrêmement réduites, c'est-à-dire qu'on doit choisir son genre parmi une multitude d'étiquettes. Là où, finalement, le mouvement de libération sexuelle voulait s'affranchir des normes, aujourd'hui, il y a une multiplication de normes, on est sommé de se ranger dans un camp, dans une étiquette, et je trouve ça extrêmement, enfermant. Oui. Idem pour l'identité raciale, c'est-à-dire qu'on doit se définir...
Oui, folie identitaire.
De façon, voilà, la folie identitaire, c'est finalement, on est passé d'un mouvement d'émancipation des identités à un moment qui enferme dans des étiquettes.
Alors, on voit, par exemple, les grandes plateformes de streaming type Netflix, Disney, véhiculent beaucoup aussi ces idées-là. Il y a des gens qui ont, par exemple, été choqués de découvrir que les nains, dans la dernière adaptation du Seigneur des Anneaux, il fallait qu'ils soient noirs, qu'ils soient chinois, il fallait représenter toutes les...
Ah oui, le culte diversitaire dans la dernière saison du Seigneur des Anneaux est absolument hallucinant. Oui.
Mais vous dites qu'on arrive à une sorte de saturation aux États-Unis aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il y a une saturation. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le phénomène de backlash, c'est-à-dire il y a un retour de bâton conservateur, en fait, parce que, effectivement, ce wokisme est allé tellement loin qu'il suscite effectivement une résistance, et parfois qui va d'ailleurs loin dans l'autre sens. Et c'est ce qu'on appelle la polarisation politique, et c'est à l'œuvre aux États-Unis. Et je pense que la France résiste dans une certaine mesure encore à ce mouvement, et c'est tout à notre honneur.
Voilà, Dora Mouto, c'est bon augure pour vous, je pense, de voir que finalement, il y a un retour de bâton. Peut-être qu'on va finir par vous lâcher la grappe, alors.
Avec un peu de chance. J'ai peu d'espoir, personnellement.
Bon, Philippe Val, mot de la fin, très rapidement.
Le mot de la fin, c'est qu'au centre du wokisme, il y a les études de genre. Il y a cette question-là, c'est au centre. Pourquoi ? Parce que ça... Encore sur le néo-antiracisme, néo-antiféminisme, à la limite, il y a des problèmes de domination masculine. Il y a des problèmes de racisme dans la société. Ça repose mal, mais ça repose sur une certaine réalité. Parce que la question du genre, c'est un acte de foi. Et c'est là-dessus que le wokisme prospère. C'est parce que ça repose sur rien, sur un mensonge. Donc c'est un acte de foi. C'est pour ça que c'est si fort.
Merci Philippe Val, merci Dora Mouto. Je renvoie vers votre compte Insta, T'as joui, et de même que votre livre Mal baisé, c'est chez Guy Trédaniel.
Je ne sais pas trop.
Merci Eugénie Bastier aussi d'être venu nous voir. 8h57 sur Europe 1. Bonjour Thomas Hill.
Bonjour Dimitri.
Allez, au programme de Culture Média sur Europe 1 dans un instant.
Eh bien, on sera notamment avec le patron des programmes de Yahoo France, Alexandre Delperrier, qui lance de nouveaux formats pour être au plus près des Français. Il traite notamment ces questions de genre dont vous parliez. On verra ce que ça veut dire exactement au plus près des Français. Et puis on recevra un acteur qui a marqué les Français avec les Inconnus. Bernard Campan sera avec nous. On parlera bien sûr de la reformation du trio le plus célèbre de France et surtout de sa nouvelle pièce de théâtre intitulée sobrement Les Humains. Et puis comme chaque jour, toute l'équipe de Culture Média va évidemment partager ses coups de cœur culturels avec vous.
Merci Thomas. Culture Média sur Europe 1, c'est dans 5 minutes. Quant à notre vendredi thématique, la réflexion se poursuit sur la pensée woke des midi avec Romain Desarbres et ce soir avec Pierre de Villeneuve. Je vous souhaite un excellent week-end à lundi.